Anschlüsse mehr? Oh. J'ai oublié de mettre le sommaire. Vous allez bien? Par contre, j'ai pas oublié de mettre deux pantalons. Ah. Ah. Non, mais il faut bien donner à manger à nos petits amis sur Twitter, sur X.
Cadeau.
Serviteur, vous allez bien? Comment se passe cette semaine? Il y a de la lumière à Paris, là, il fait beau, là, c'est cool. Et vous? Tu donnes tellement, mais je donne. Et il faut bien que ces gens aient du contenu à faire, tu sais, c'est pas facile tous les jours. Hein, y a pas... dans leur écosystème propre, il n'y a pas beaucoup de choses à donner, si tu veux. Donc il faut aller un petit peu chercher chez les autres. Cadeau. Moi, je suis pour la distribution, moi. Il faut distribuer. Une société doit savoir redistribuer. Ceux qui ont doivent pouvoir donner à ceux qui n'ont pas. Les créateurs de contenu qui ont la chance d'avoir des choses à dire doivent pouvoir donner de la matière à ceux qui n'ont pas grand-chose à dire. Donc, ami compte anonyme sur X et consort, c'est pour vous, c'est cadeau. Avec ça, vous devrez faire quelques petits likes. Comment ça va, vous? Waouh! En Inde? Trop bien. Oh, casquette verte! Comment ça va? Ça fait longtemps. Comment ça va la course? J'espère que tu. Parfois, je pense à toi, je me dis, j'espère qu'il se blesse pas parce que son rythme de course est quand même fou. Serge. Bah, on n'a pas tous la même vie. Archange, 57, Easy dans le chat. Je ne vais pas pouvoir rester, je suis à Serre Chevalier pour une semaine de ski. Non, je te le refais. Les amis, je ne vais pas pouvoir rester, je suis à Serre pour une semaine de ski. Oh, la neige est divine. La neige est divine et le soleil. Enfin, avec Marie-Chantal, nous ne profitons pas trop parce que le ski, c'est très surfait. Nous sommes en altitude, à la Folie Douce, avec les amis, tu sais, avec Hugo et sa bande de potes. Tellement drôle, tellement sympathique. Oh là là, je les adore ceux-là, ils sont drôles. Oh, ils sont un peu cons, mais tellement drôles. Voilà. Ça va bien se passer, coucou Dev. J'ai vu ton message tout à l'heure. J'étais en lurk, j'ai vu. Ça va très bien se passer. Je suis sûr qu'il n'y a pas de faute dans ton message sur ta newsletter. Ça va, Camille? Oh, j'ai passé une bonne soirée hier soir. Une soirée Fortnite. C'est marrant comme quoi il y a des jeux un peu mythiques, des jeux importants qu'on comptait pour plein de gens. Alors, Fortnite est moins mis en avant, je pense, aujourd'hui. Mais moi, ça, j'aime bien explorer des jeux comme ça qui ont été très importants. Même si la communauté est moins grande aujourd'hui, parce que moi, ça me permet de comprendre aussi pourquoi ces gens ont aimé ce jeu, quoi. Et vrai. Mais ce jeu est top en vrai. Tu vois, dans les. T'as les armes, t'as le loot, t'as le côté tir FPS. Je joue en no build. Mais tu vois, les maps sont jolies, tu peux te promener, tu peux te cacher, tu peux lurker. Le buisson, c'est énorme. Enfin, surtout quand j'ai compris qu'il fallait pas qu'un buisson qui bougeait, c'était louche. C'est un bon jeu. Ouais. Le seul jeu où j'admets être très nul, mais je prends beaucoup de plaisir à jouer, dit Massalia. Moi, j'ai un peu ça sur tous les jeux, si tu veux. Non, j'aime bien. Là, tu pourras faire des duels avec des enfants. Non, ils sont trop jeunes pour jouer à des jeux de tir. Non, non, c'est avec des armes et tout. Non. Sauf Archiro, je suis bon, en vrai. Hein. Ça joue ici. Hein. Ça joue ici. Attends. Qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire sur Archero? Tiens, plutôt que la revue de presse, alors que à Rennes, défi, c'est pas mal, la bataille des sceaux, bataille des plantes, est-ce que j'ai gagné un nouvel œuf? Ah oui, disons, j'ai gagné un nouvel œuf. Ok. C'est pas mal ça, 166, je suis 166? 66, c'est pas mal, 166e. Et là, la bataille des sceaux, The Mister CH. Troisième de tous les gens dans le monde entier qui jouent en ce moment à la bataille des sceaux sur Archero 2? Bah alors? Bah alors? Ouais, ça va bien. Regardez-moi ça, regardez ça. Oh là là! Puis dis donc, regardez la puissance. Oui, dans le monde entier, bien sûr. Tiens, on va monter un petit peu les stats. Alors, on pourrait faire monter ça, par exemple. Regardez la qualité du compte. CH pour la Suisse? Non, pour Chypre. Puis ici, ça monte son zizi. Vous savez bien. Il y a de la puissance ici, hein? Qu'il est cool, sa belle. Bon, comment ça va, vous? Vous avez passé un bon début de semaine? Non, Fortnite, c'est vraiment cool. Alors, vous savez que je ne lance jamais vraiment un jeu vidéo par hasard. Parfois, c'est la découverte, parfois, c'est la curiosité, parfois, c'est on m'en a parlé, parfois, faut aller au bureau, pas envie, mais si, sugar, allez, force! Voilà, c'est mardi, c'est bientôt le week-end. Ah, c'est ce que j'ai dit à mon petit. Ah non, ce matin, je me dis, c'est bientôt mercredi. Et parfois, il y a de l'OP. Parfois, il y a de la compète. Parfois, il y a de la compète. Et là, je n'ai peut-être pas relancé Fortnite par hasard. Prépare peut-être une carrière e-sport ici. Enfin! On va pas lire les journaux toute sa vie ici, hein. Voilà. Et puis, côté Valo aussi, je prépare du compétitif. Je vous en dis pas plus pour l'instant, mais voilà, ça fait longtemps que vous savez que Valo n'est pas mon jeu de cœur pour rien. Je vous prépare peut-être un truc. Voilà, ça bosse, ça bosse, ça bosse, ça bosse. Mon chéri et sa maman vont retourner au Japon un moment. Un message pour tes potes Yakuza. Je ne commenterai pas cette info. Salut, Only Luke! Bonjour, le petit cappuccino. En attendant que le libraire ouvre. Mais attends, mais Pierre, mais c'est le paradis. Tu es avec un petit cappuccino? En attendant que la librairie ouvre. C'est-à-dire que tu travailles à la librairie ou de bon matin tu vas acheter des livres. Dans les deux cas, tu vis ta meilleure vie. Un cappuccino dans une main? Tu travailles en librairie? Généraliste? C'était mon rêve quand j'étais petit, ça, je voulais vivre parmi les livres. Pour moi, c'était ce qu'il y avait de plus beau. Vivre parmi les livres. Quand je serai à la retraite, je ferai ça. Peut-être pas libraire, mais je vivrai parmi les livres. Je ne ferai plus que ça, je lirai. Merci, Kalidan. Tu sais, faut pas faire attention, hein. Merci de m'avoir défendu, c'est adorable, mais tu sais, les tontons bourrés avant, ils étaient au bar à 18h, et ils étaient entre eux à discuter, tu vois, ils faisaient pas de mal, mais maintenant ils sont sur Internet, donc quand t'entends un tonton bourré à 18h dans un bar dire des conneries sur l'actu, tu rentres pas pour lui régler son compte, tu dis, oh là, il est rebourré lui. Et puis en plus, le lendemain, il s'en rappelle pas, donc c'est pas la peine de lui expliquer les choses. Sur Internet, c'est pareil. Ne rentre pas. Tu sais, tu perds ton temps. Donc oui, la retraite au milieu des livres. Alors, je pense que je ne je pense pas que j'irai tenir une librairie, même si je trouve ça magnifique. Mais je pense que un jour, Dieu sait si j'ai aimé ma vie, mais qui parle au passé, et ma vie d'avant, hein, ma vie d'aujourd'hui, mais peut-être qu'un jour, pour les dernières. La dernière ligne droite, quoi, la retraite. Peut-être que justement, je déconnecterai, je vivrai parmi les livres. Peut-être. Je lirai. Je ne ferai que ça. Et manger des gâteaux. Kalidan, c'est adorable. Mais. Te prends pas la tête, tu sais, moi je suis habitué, t'as vu ce que je prends chaque semaine, hein? À chaque semaine sa petite sauce, regarde. Je vis ma meilleure vie, moi. C'est juste que je distingue la réalité du débat, la réalité de la conscience et de l'opinion d'un pays, avec quatre excités sur Twitter qui savent pas quoi faire de leur vie, voire qui vivent de ça d'ailleurs. Pour certains, il y a des vrais intérêts économiques derrière. Une fois que t'as compris ça, et que tu vois que ça ne t'impacte pas personnellement. Familialement et encore moins professionnellement, parce qu'en fait, les gens avec qui tu as envie de bosser sans contre-fiche, faut que tu as compris ça. Pâtisserie, librairie, ça, j'y avais pensé, ça. Une pâtisserie-librairie. Est-ce que ça ne serait pas le plus bel endroit du monde? Pâtisserie, café, librairie. De quoi le monde a-t-il besoin d'autre? Je pose la question.
Je pose la question, on ne peut pas poser la question. Oh.
Hein? Evalo, je sais pas, je pense que je déconnecterai. Peut-être que je continuerai à jouer aux jeux vidéo, peut-être quand même. Tu m'embauches en pâtissier, dit merci qui? Comme ça, tu dégueulasses bien les pages des livres. Oh bah, une fois que tu l'as acheté, tu fais ce que tu veux, hein. Pas de fée hommage? Je sais pas, tortue à chaise. J'aime pas trop le fée hommage. Je mettrais peut-être un peu de fromage. Mais le fée hommage, je sais pas. Le fée hommage, c'est très surfait, hein. Parfois, ça sent fort. Je voulais faire un café, lavomatique, librairie, c'est bien ça. Pour qu'on puisse lire des bouquins mais avoir ses fringues. Pourquoi tu dis que les lecteurs ils sont crados? Tu dis que les gens, tu dis que les gens qui lisent des livres ils sentent un peu le champignon? C'est ça que tu dis? C'est mon rêve si je suis milliardaire un jour, comme ça je peux avoir mon café à perte, mon café à perte sans stress. Bon, t'as pas besoin d'être milliardaire en vrai, même millionnaire, hein, ça va bien, hein. Il existe des librairies avec des chats, c'est trop bien. Oui, alors je suis pas convaincu, c'est la librairie avec des chats. Ouais. J'ai essayé une fois, ça supporte très mal le marque-page. Hein. Ouais, ça. Tu vois, tu es avec le chat, là, tu le gratouilles, mais à un moment, tu tiens, j'y vais, donc tu mets ton marque-page pour reprendre le lendemain au même endroit. Oh, le chat, non, non. Non. Moi, ouais, je suis pas convaincu par le concept, moi. Pas sûr que ça marche, ça. J'étais dans un café librairie avec des chiens, il y en a un qui m'a fait pipi dessus. Ouais, je sais pas. Non, je sais pas. Eh oui, demain il y a MVP, Alexandra. Eh, demain il y a MVP. Ouais, demain il y a MVP. Deux MVP de suite. J'attends les visuels. Je suis censé les recevoir le vendredi. On est mardi. Ah, j'en ai un à vous montrer. Comme je râle le mardi matin. Alors, les visuels de MVP, j'ai le droit de râler, moi. Ils ont posté le visuel. Oui, mais on ne les envoie pas, si tu veux. Moi, j'ai demandé que les visuels de MVP me soient envoyés le vendredi pour pouvoir en parler le vendredi, pour en parler le samedi, pour en parler le dimanche, pour en parler le lundi. Le mardi matin, j'arrive ici, je dis, bon, vous n'auriez pas les visuels? Ah, bien, si! Moi, je veux bien bosser, je veux bien faire des efforts, mais quand ça ne suit pas, ça ne suit pas. Tiens, je viens de le recevoir à l'instant, 9h28. Let's go. Je râle, mais bon. Ça me plaît. MVP, MVP, MVP. Il est là. Ouh, le beau gosse. Et voilà. Tadam! Regardez-moi ça. Non, c'est la semaine dernière, ça. Non, c'est celui de la semaine dernière, ça. C'était très bien, avec Charlotte Vautier, c'était génial. MVP. J'ai tellement de MVP. Alors. C'est pas possible. Non, ça doit pas être ça. C'est pas possible. Il y a Ava. Mais non, c'est Ava Mind. Comment ça, Ava Mind dans MVP? Ava Mind? Dans MVP? Eh oui, c'est moi qui l'ai fait! Eh ouais. Go! Eh ouais, bon, on est comme ça. Eh ouais. T'es cool, hein? Ouais. Bah ouais, j'aurais voulu vous l'annoncer vendredi, moi, en vrai, tu vois. Je le sais depuis un moment, moi. Je le sais plus à peu près le milieu de semaine dernière, quoi, tu vois. Donc voilà, bah, je vous le dis le mardi, quoi. Donc Ava, mesdames et messieurs, Ava, dans MVP. Mimi Hegel que j'adore, voilà. C'est bon, on la reconnaît pas très bien, Ava. Pourtant, c'est une photo fournie par son équipe. C'est marrant, hein? Mais y a pas de Hans Bunker. C'est très peu de gens, tu sais. C'est très peu de gens. Hein. Voilà. On la reconnaît pas, je trouve. Voilà. Et donc Mimi que j'adore, qui est une journaliste créatrice de contenu. Bon, Ava, est-ce qu'on présente Ava? Non. Et Ludovic B, mon poteau. Qui est à la fois mon poteau et qui est un poteau, qui est un pilier. Oh, je lui dirai ça demain, ça va lui faire plaisir. de MVP. MVP, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est Ma Vie Pro, l'émission qui explore les voies professionnelles pour chacun trouve la sienne. Genre, t'es au collège, tu sais pas ce que tu veux faire plus tard comme taf, MVP. T'es au lycée, tu sais pas ce que tu veux faire plus tard comme taf, MVP. T'es en études supérieures, tu sais pas ce que tu veux faire plus tard comme taf, MVP. Tu travailles déjà, mais bon, peut-être que tu pourrais changer d'entreprise ou de secteur, ou MVP. Voilà. Ça fait presque 2 ans, hein, c'est la 2e saison. On se régale, c'est 2 mercredis par mois. C'est à, je fais une revue de presse à 8h30, à 10h l'émission commence, jusqu'à midi, avec plein de chroniques, de petits jeux, d'invités pour parler de métier, d'orientation, de secteur d'activité, de ah bah c'est quoi le métier d'avocat, c'est quoi le métier de soudeur, etc. Et puis à 12h, on a un invité. Voilà. Le visuel n'est pas prêt. Tu n'as pas le visuel de l'invité? Il n'y a rien qui va. Si j'avais du temps, je dirais, les gars, ça va plus du tout, les invités. Hein. Voilà. Donc voilà, donc ça fait une belle line-up demain. Et là, j'ai un militant, j'ai un Teams sur l'émission pour tout écrire. En général, j'écris l'émission tous les bon, on échange entre 2 émissions sans arrêt avec Paul, qui est le rédacteur en chef de l'émission, pour les thématiques, les invités. En général, c'est moi qui écris aux chroniqueurs, là, parce que les Mimi et Ava que vous voyez, là, c'est plus que les invités, c'est des chroniqueurs. Sachant que Ludo, c'est le chroniqueur permanent, le spécialiste des métiers. Et donc, avec Paul, tout au long de la semaine, j'échange sur les invités, les thématiques, de quoi on pourrait parler, qui on invite. Et puis, on se fait un petit Teams le mardi à 12h30, tout à l'heure. Et après, ben, l'après-midi ou le soir, j'écris l'émission. Voilà. Et ça, c'est demain. Et ça va être super. Et puis, et je suis content parce que c'est une émission qui est une vraie belle émission, sur le fond et sur la forme, je pense, qui rend vraiment un vrai service, qui parle de choses importantes, mais de façon un peu détendue et chill. Et il y a vraiment du monde, donc ça me fait plaisir. Voilà. Fenzoï. Point d'exclamation MVP. Ça marche toujours MVP? Ah oui, regardez, hop, t'as tout là. Voilà. J'ai un master d'histoire, je suis en 5e année de médecine et je regarde comme si j'étais concerné. Mais tu es Poppy, on est tous concernés? Ça paraît être une évidence, mais je vois pas du tout qui est l'invité principal. Y a pas l'invité principal, il est pas là, c'est un autre visuel que je devrais recevoir le vendredi. On est mardi, 9h42, tout va bien. J'ai envie de râler ce matin. Voilà. Pourquoi c'est interdit au moins de 18 ans? Ah oui. C'est vrai que c'est assez rigolo. Le 18 est assez rigolo, ouais. Je pense que c'est parce que c'est le 18 mars, c'est-à-dire demain. Mon enfant aura officiellement 15 jours, puisqu'il est né le 3, le dernier. Et toi, Samuel, tu aurais fait quoi si tu n'aurais pas été dans le duel? J'aurais été bandit, je pense. J'aurais été bandit de grand chemin. Voilà. Ben non, Sarah n'a pas commencé les journaux. Attends, il est 9h42. Je fais passer la nuit. Hein. Combien de temps pour écrire l'émission? Ça dépend. 3 et 5 heures, quoi, je dirais. En étant concentré. Je vous lis, c'est mon kiff. Merci, lui, Haute Nature, pour ton message. Avec le foulard et le sombrero? Non, plutôt avec un katana. Plus, bandit de grand chemin, tu vois. Oui, plus en 47 Ronin, oui. Super fab. Merci, ce bon cœur. Merci, Poupouch, pour Pio. J'ai un enfant de 15 jours, ouais. J'ai un enfant de 9 ans, j'ai un enfant de 6 ans et j'ai un enfant de 15 jours. Voilà, il est. Et qui est. Qui sont les plus beaux enfants du monde. C'est que des petits garçons, je fais que des petits garçons. Enfin, on fait que des petits garçons. Sarah la Street. Ah, Sarah! Mais je vois pas. Alors. Sarah, je vois pas. Ah, mais si, c'est juste, je vois ton message. Oui. Mais tu sais que je t'ai cherché hier en live, Sarah? Parce qu'en fait, hier soir, je voulais voir si t'étais en live hier soir. Et puis, je me rappelle plus tout de tous les pseudos de chaîne. Sarah la Street, je parle avec une streameuse, pardon, je parle. On parle avec Sarah, hein. Bon, on l'est pas. Et hier soir, en fin de Fortnite, j'ai cherché à voir si t'étais en live, mais j'avais plus ton nom de chaîne exactement. Mais je crois pas avoir vu. Ok, maintenant je l'imprime, parce que voilà, je te ferai un petit coucou. Mais n'hésite pas à me dire quand tu. Enfin là, vite fait, quels sont tes horaires de stream habituels? Merci Excelou. Merci Valsnoop. Merci Duduche du Rocosard. Moi, je voulais être vendeuse de maillots de bain pour nudistes. Je pensais qu'il y avait un vrai business à faire. Oui. C'est niche. C'est niche. On n'a pas trouvé les mêmes horaires. Je suis en live plutôt début d'après-midi. Après-midi, début de soirée. Ah ouais, alors ça correspond pas du tout à mes heures de live. Aïe! Parce que moi, tu sais, je stream le matin. Donc quand je raid, c'est vers midi 30. Et le soir, quand je raid, c'est vers minuit, quoi. Aïe. Alors faut pas le dire, mais quand la revue de presse est à 8h30, ça tombe en même temps que notre brief d'équipe. Alors je mets en scred mon oreillette. Demain matin, elle sera effectivement à 8h30. Vous voulez que je vous dise qui est l'invité demain MVP? Parce que j'attends. Je pense que j'aurai le visuel jeudi, hein, de l'invité MVP demain à 12h. Alors l'invité MVP, c'est notre grand témoin. C'est l'invité qui revient avec qui on revient sur sa carrière. Quel que soit le secteur d'activité, on se dit que ça va parler aux gens parce que dans une carrière, quels que soient les métiers, ben, tu as des moments de réussite, de doute, de formation. Donc je pense que ça peut parler à tout le monde. Voilà. Et donc là, on est mardi, l'émission est demain et tel que c'est parti, j'aurai le visuel d'annonce jeudi. Donc voilà, je vous l'annonce, c'est Arthur Perticoz. C'est comme ça qu'on prononce, hein, Perticoz, je crois. Tout le monde voit Arthur? Ça va parler e-sport, ça va parler K-Corp. Eh oui, eh oui, eh oui, l'ex-CEO. J'aurais aimé vous montrer le visuel, mais il n'y en a pas. Le CEO de MyCEO. Oui, c'est ça, oui. Ben en fait, Arthur, c'est quelqu'un qui a eu de grosses responsabilités à la K-Corp, si je dis pas de bêtises, c'est ça? Et je sais, c'est ça, hein. Et qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui, Arthur? Aujourd'hui, d'ailleurs. Tout ça pour se faire recruter par la K-Corp, Sam, c'est pas un peu gros? J'ai d'autres projets, moi, en mode d'e-sport. Voilà. Il est consultant désormais, c'est ça? Il repart en entrepreneur? Sugar me dit, il fait rien, il repart en entrepreneur. Sympa les entrepreneurs. Alors ça fait rien, l'entrepreneur. Alors ça fait rien, l'entrepreneur. Alors comme ça?
Quelle indignité.
Ça fait rien, l'entrepreneur. C'est lui qui le dit. D'accord. Donc t'as un invité, tu sais pas qui c'est? Bah si, mais c'est parce que. En gros, moi je sais globalement ce que fait Arthur et on trouve intéressant de revenir sur son parcours. Maintenant, je vais passer 2-3 heures sur sa vie, son œuvre ce soir. Ouais. Demain matin, je connaîtrai mieux la vie d'Arthur qu'Arthur. Eh oui, ça s'appelle le travail, c'est un concept. À l'école, normalement, on nous apprend. Oh putain, désolé, je suis confus, je suis en mode dark ce matin. Oh, Pirae, la librairie. Il développe son activité de créateur de contenu à côté. Il a des projets entrepreneuriaux, mais il n'a pas de poste ou quoi. Ouais, bah il fait rien quoi. On les connaît, hein, les créateurs de contenu qui ont des projets entrepreneuriaux. On dirait pas des projets entrepreneuriaux d'ailleurs, Sugar? Des projets entrepreneuriaux? On dit pas des projets entrepreneuriaux. C'est affreux d'ailleurs, mais. Non, on dirait pas ça? Je sais pas, j'ai hésité. Bon, en tout cas, bon, il fait rien. Bon, bah ça va être très vite. On a 1 heure normalement à échanger avec Arthur demain, ça va être rapide. Bon, Arthur, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Bah, je suis créateur de contenu, j'ai des projets entrepreneuriaux. Ouais, bah tu fais rien. Allez, let's go. Fin de l'émission. Merci Raven Club. Merci Exilou. Ça va être vite fait, tiens, ça me donnera 1 heure de rab. Tu achètes ton. Oh! T'as vu?
Ah oui. Ok, d'accord. Salut Stylion. Et c'est quoi l'histoire de Yams? Tu lui parleras du Yams aussi. C'est quoi le... Arthur Perticoso. C'est quoi le Yams? Pourquoi c'est un fan de Yams? Coucou Stylion. Stylion, pardon, excuse-moi. Bon bah écoutez, j'ai demandé le visuel, mais je l'ai pas. Enfin, le visuel d'Arthur. Il a fait un 1v1 de Yams contre Kamel à 20k viewers. Quoi? 20k viewers contre un 1v1 de Yams? Mais c'est quoi ce Beans? Je laisse mon WhatsApp allumé. Si vous entendez un ding ding ding, c'est moi, hein, c'est parce que j'attends un visuel. Merci Joblark. Merci pour le soutien. Putain, là, attendez, vous êtes vachement nombreux. Putain, Putain, excusez-moi, je discute. Et vous attendez les infos? Vous êtes. Ah, pardon, excusez-moi, je suis choqué. Je suis dans l'intro, moi je raconte ma vie. Voilà, et en fait, je vois pas. Excusez-moi. Et vous êtes venu chercher l'actu. Donc, on va peut-être arrêter de bavasser. Vous en pensez quoi? Trêve de bavardage, comme disent les gens lettrés. Ok? On va peut-être aller bosser un petit peu. Ça compense pour l'intro express hier. Ah oui! Pourquoi c'était express hier? Ah oui! Oh, j'avais un gros tournage hier après-midi. Je suis passé à la maison de la radio en début d'après-midi à enregistrer un message pour le festival MVP. Parce que France Info est partenaire du festival MVP. Hey, les gars, vous êtes le 11 avril, vous êtes en région parisienne, vous venez me voir. Hein, le festival MVP, c'est l'émission MVP, mais en festival, en salon. Salon, formation, orientation, proposition de job. C'est gratuit. Il y a juste un QR code, je crois, pour l'exclamation festival. Voilà. Et pourquoi je dis ça? Ah oui, parce que c'est en partenariat avec plein de gens, et notamment France Info. Donc hier, je suis allé enregistrer une petite promo. Voilà. Oh putain, encore de l'argent public. Ah ouais. Ah, puis c'est en partenariat avec France Travail en plus. L'ancien Pôle emploi. Oh là 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 là, encore de l'argent public, mais nom de Dieu. Mais qu'est-ce que va dire l'UDR? Aïe, 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 aïe. Donc, n'hésitez pas à venir pour l'exclamation festival. C'est gratuit, c'est cool. Ça parle d'emploi, d'avenir, d'insertion, de formation. Voilà. On vous attend. On se fera des bisous. On se fera des selfies et tout, quoi. Retour à la commission. Ah ben, quand ils veulent. Hein. Alors là, je peux te dire, j'attends ça de pied ferme. Ouais. Moi, je demande que ça. Ça nous fait du content, ça nous fait des vidéos, hein, ça nous fait des vidéos YouTube. Ah, mon Charlie, tu m'appelles quand tu veux. Hein. Moi, je reviens, je connais le chemin. Bon, c'est pas fou comme cantine. Il n'y a pas de café, il n'y a rien, c'est que de l'eau plate. Dans les carafes à gros bouchons, là. Mais tu m'appelles quand tu veux. Ah, je suis chaud. Ça reprend bien ton heure. Parce qu'ils ont eu 3 semaines de pause pour les municipales. Et ça reprend normalement le lundi 23. Les auditions de la commission de l'Assemblée sur l'audiovisuel public. On va les voir. On va les regarder. On espère que le niveau des questions s'est un peu amélioré. Ça va partir en replay ici. Eh oui! Parce qu'ici, on se demande ce qu'on fait de l'argent public. Est-ce qu'on utilise bien l'argent public? Parce que tout ça, c'est fait avec de l'argent public. Donc, on va les regarder. En 3 semaines, il a eu le temps de bosser. Bah, on espère que les questions seront un peu mieux, du coup. Ouais. Ouais, ils sont en stand-by à cause des municipales, Cadidane. Ouais. Ouais, avec votre argent, ouais. Avec notre argent, ouais. Eh oui. Bizarrement, 3 semaines, il a rien posté. Bah non, il manque de matière. Il attend. Ça repart lundi. Ça repart lundi. Ouais. Et notamment, il y avait Xavier Niel, le patron de Free. Salut Charles-Henri. Le patron de... Il m'en veut pas, regardez, il est même sub dans la commu. Le patron de Free qui a posé un lapin à la commission. Ouh là là, il était pas content. Et donc, moi, c'est une audition que j'attends avec impatience. Ouais. Il leur a mis une disquette Xavier Dixiezel. Ouais. Donc ça, c'est une audition qu'on attend avec impatience, ouais. Ah oui. Ah oui. Tu veux la réacte? Oh oui. Oh oui. Oh oui, la régalade. Bon, on va aller bosser un petit peu, non? Et si on allait un petit peu sur l'info? Tiens, je vous montre le sommaire déjà. Un gros sommaire. Ici, on aime les gros sommaires parce que ça cache des... Voilà. Qu'est-ce qu'on a? Alors, bon, pardon. Alors, vous allez m'engueuler. C'est un peu monothématique. Vous voyez, il y a beaucoup de municipales et de politiques. On est dans l'entre-deux-tout. Je vous rappelle qu'on a fait une belle soirée premier tour dimanche. On en refait une pour le deuxième tour dimanche. Voilà. Parce qu'il y a beaucoup de suspense, notamment dans les grosses villes, Paris, Marseille. Ça va être intéressant à suivre. Et là, du coup, je vous ai remis pas mal de municipales quand même, parce qu'on est vraiment dans l'entre-deux-tours. Et sinon, beaucoup de Moyen-Orient. Voilà. Et donc, c'est les deux grosses thématiques avec différentes entrées, bien sûr. Mais j'ai vraiment épluché les journaux comme je fais d'habitude. Et il n'y a pas eu d'autres sujets qui se sont imposés à moi. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres sujets intéressants. Tu vois, parce que bon, comment je sélectionne un article? Il faut que l'actu soit intéressante. Il faut que l'article me donne envie. Par exemple, les Oscars. Nouveau sujet. Oh putain, j'avais pas vu. Nouveau sujet. Je l'enlève. Les Oscars, j'attendais des articles super sympas. Ah, rien. Les articles étaient vraiment pas fous. Voilà. T'es un peu déçu. Peut-être dans le monde qui va sortir cet après-midi. Voilà. Ah, Sugar, j'ai pensé à toi pour le flou de Retailleau. Je l'ai mis pour toi celui-là, mais c'est vrai en plus. Chalamet qui n'a pas eu d'Oscar? Ah, ouais, bah ça, tu vois, j'ai pas vu l'article là-dessus. J'ai une question, Sam. Si Dati était élue maire, elle est donc maire de Paris plus maire de son arrondissement. Je sais pas s'il peut être maire de Paris et maire de ton arrondissement. Je sais pas du tout. Major. Ouais, Trump et l'OTAN, c'est important par contre, ouais. Ok. Bon, on fait ça. Et puis sûrement que demain, on aura une information un peu plus variée. Mais en même temps, c'est pas inintéressant de savoir où on en est de la guerre au Moyen-Orient, hein, en Iran, et à la municipale. Ok. Est-ce que vous êtes prêts? On va dire bonjour à nos amis qui nous écoutent en podcast audio. Bon anniversaire, Stilmut. 25 ans, baby. Ça, c'est beau, ça profite. On y go? Si vous êtes prêts, moi, je suis prêt. Quid de l'Ukraine? Bon, on suit l'Ukraine, ici, on en parle régulièrement. Ouais. Il faut venir plus souvent, Chomban, non plus, t'es sub. Hein. Ok, allez, c'est parti. Vamos. 3. 4. Bonjour à tous, bienvenue dans la matinée Étienne, nous sommes le mardi 17 mars 2026, ça fait 5 ans qu'on est heureux d'être là le matin, et c'est tous les matins sur Twitch, et c'est tous les jours en replay sur YouTube, enfin en général on met ça le lendemain, et c'est tous les jours en replay quelques heures après la revue de presse l'après-midi, en général on fait la revue de presse le matin, et vers 15-16 heures c'est posté en podcast audio. Depuis la rentrée de septembre et ça me fait très plaisir parce que vous êtes très nombreux à nous écouter et dans le chat Twitch amis des podcasts audio vous ne pouvez pas le voir mais il y a des gens qui vous saluent hein. Erendil, bonjour, coucou YouTube et le podcast, n'hésitez pas, même si nos amis des podcasts ne peuvent pas lire le chat, n'hésitez pas à leur dire bonjour les amis des podcasts, ça va leur faire plaisir. Bonjour podcasteurs, vous êtes incroyables. Donc merci d'être avec nous. On va commencer comme d'habitude par le sommaire pour avoir l'essentiel de l'actu et après on va développer tout ça pendant 2h, 2h30, 3h. Alors dans le sommaire aujourd'hui, c'est très monothématique, il y a deux grosses actualités. En général j'en fais 5, 6, 7 et puis il y a des jours comme ça où l'actu est un peu monothématique avec beaucoup d'articles sur le même sujet. C'est le cas aujourd'hui, je vous parlais beaucoup des municipales, puisque nous sommes dans l'entre-deux-tours, un premier tour qui a été fort intéressant, une redistribution des cartes politiques qui se poursuit, et quelques jours avant le deuxième tour qu'on pourra suivre les résultats dimanche soir à partir de 20h sur cette chaîne. D'ailleurs, tu ne parles pas de Papa Sarko, j'espère que tu en parleras cette semaine. Mahatma, je ne savais pas que Nicolas Sarkozy était ton père, si tu avais été là hier, on en a parlé très longuement, voilà ce que c'est de ne pas être là tous les jours. T'as le replay si tu veux, mon chouchou. Alors, je parlais des municipales, c'est parti. Oui, on parle du procès en appel de Nicolas Sarkozy dans l'affaire du financement libyen de sa campagne électorale. Effectivement, on a lu un long article hier. Alors, ça commence ici. Avec Le Monde, donc, un scrutin déjà tourné vers la présidentielle, parce que oui, c'était une élection locale, municipale, mais avec des conséquences, une portée nationale. Et je trouve très intéressant de décortiquer les conséquences sur la vie politique française dans sa globalité, les conséquences aussi sur ce qui va se passer dans les prochains mois, notamment sur la campagne pour 2027, à partir de ces municipales, qui sont quelque part aussi un instantané, un cliché de l'état de l'opinion publique à un instant T. C'est quand même plus intéressant que de simples sondages. Voilà. Donc, un scrutin déjà tourné vers la présidentielle, écrit Le Monde dans sa dernière édition. L'entre-deux-tours va s'imposer comme un laboratoire des rapports de force politique pour l'élection 2027. C'est exactement ce que je viens de dire. Le Monde un peu copieur. Là-dessus. Ok, merci MMG. Diesel, quelqu'un peut me dire comment Laura Lavalette, porte-parole du FN, peut se présenter sans étiquette Alors c'est RN, tu veux dire RN. Ah non, Diesel. Hein. Ah non, on ne confond pas. Hein. Non, c'est pareil. C'est RN. Quelqu'un peut... Donc je reprends ta question. Comment... Quelqu'un peut me dire comment Laura Lavalette, porte-parole du RN, peut se présenter sans étiquette à la mairie? C'est vrai. Et dire après que c'est une victoire du RN, j'ai du mal à suivre. Je ne peux pas répondre à ta question. Faut demander au RN comment ils font leur histoire. Mais c'est une vraie bonne question, effectivement. Donc on lira ce papier dans Le Monde. Et puis dans Le Parisien, c'est même la une du journal, et beaucoup critiquent ça d'ailleurs. Il y a beaucoup de voix politiques qui se sont élevées depuis hier, et beaucoup d'articles très critiques aussi sur les petits calculs à gauche. Voilà, parce qu'il y a eu des déclarations, des grandes déclarations d'intention avant cette élection, en mode nous les socialistes... Fini les alliances avec LFI, parce que c'est plus possible, après les propos de Mélenchon, après ce qui s'est passé à Lyon, et voilà. Des grands mots, des grandes déclarations, des principes affirmés, déclarés, et puis arrivent les élections, et puis ben, ici, et là, et encore dans cette ville, et là aussi, eh bien, on a besoin d'accord, d'union. Voilà. Et donc il y a beaucoup de critiques là-dessus. L'heure des petits calculs, c'est la une du Parisien ce matin, excepté à Paris. Marseille et Lille, les socialistes et les insoumis ont scellé de nombreux accords locaux pour le second tour des municipales, oubliant querelles et invectives des semaines passées. Alors, ce qui est beaucoup dit ce matin dans la presse, c'est qu'on oublie les querelles et les invectives jusqu'à dimanche et que dès lundi prochain, ça reprendra sans doute. Voilà. Donc ça donne, regardez l'édito d'Olivier Auguste qui dit « Ils sont où les principes ?» Voilà. Un article, page 2, intitulé « Guerre des nerfs à gauche ». Voilà. Mélenchon qui met les socialistes au pied du mur. Voilà. Là, vous avez un article dans l'Humanité aussi, mais alors pas sur les socialistes et le RN, mais sur LR. Pourquoi ? Et j'ai eu un échange intéressant avec l'un de vous hier, alors l'un des plus illustres, hein, puisqu'il s'agit de Sugar Frog, le modérateur, celui qui est à l'origine du Zizi Gate. Hein, je vous rappelle, tout ça c'est complètement de sa faute. Pour l'exclamation Zizi Gate. Dans le chat, il va me détester. Hier, je disais, Bruno Retailleau, le patron de LR, a fait une déclaration très claire. Il a dit ni RN, ni LFI. Il faut faire barrage aux deux. Voilà. Et l'ami Sugar, qui est dans le chat, a dit ah, je suis pas d'accord. Il a fait une autre déclaration où, en fait, il dit essentiellement non LFI, mais. Justement, il est beaucoup plus fou sur le RN. Et alors, je suis allé vérifier, parce que si c'est ce qu'on fait, on vérifie les infos. Check. Et Sugar avait un peu raison. Alors, certes, il est à l'origine du Zizigate, mais effectivement, Retailleau a fait deux déclarations. T'en as une qui est clair, et l'autre, effectivement, qui l'est moins. Et tu sais quoi, l'humanité fait un papier là-dessus. Fusion LR-RN, l'hypocrisie de Bruno Retailleau. En appelant ses électeurs à faire barrage à LFI, le chef des Républicains les incite sans l'assumer à voter pour l'extrême droite. On verra ce papier. Ce qu'il vaut, en tout cas, c'est l'analyse de l'humain. Une ambiguïté, quoi. Voilà. Donc ça, c'est, vous voyez, les premiers titres. Municipal, la nouvelle donne politique, PS et LFI, l'heure des calculs. Fusion LRRN, l'hypocrisie de Retailleau. Et puis on fera des zooms sur certaines villes. Et ça va être la régalade dimanche, parce que pour le coup, c'est un peu passionnant quand même. Tout ça, qu'est-ce qui va se passer à Paris, par exemple, hein? Est-ce que c'est Madame Dati? Est-ce que c'est Monsieur Grégoire qui vont gagner? Qu'est-ce qui va se passer à Marseille? Est-ce que c'est Benoît Payan, le maire sortant de gauche, qui va être réélu? Est-ce que c'est le RN qui va s'imposer à Marseille, hein? Donc là, on fera un coup de projecteur sur Marseille, sur Nice aussi, parce que c'est très intéressant, parce qu'a priori, à Nice, sauf énorme surprise, c'est Éric Ciotti qui va devenir maire de Nice. Hein, au détriment de d'Estrosi, hein. Et donc ce serait une ville importante quand même, Nice, qui tomberait dans l'escarcelle, alors non pas du RN parce que Éric Ciotti n'est pas RN, mais de l'extrême droite, puisque Éric Ciotti c'est le président de l'UDR, qui est un autre parti d'extrême droite. Voilà. Donc on va se pencher là-dessus, et donc on a des petits zooms comme ça dans le Parisien ce matin, et on a aussi un zoom sur Paris, et là j'ai besoin de vous parce que je comprends rien. Alors là, ici, c'est l'info 2.0, c'est-à-dire qu'on essaie de comprendre ensemble. Je ne suis pas un sachant, je doute beaucoup de moi-même, de ce que je peux dire, et c'est plus un échange, vous le savez. Et là, sur Paris, je ne comprends pas trop. Donc, je comprends que Bournazel, le candidat Horizon, alors c'est là où c'est pas très clair, se retire ou s'allie à Dati. Alors, en fait, il s'allie, parce qu'en fait, il a obtenu des postes pour les candidats de son camp. Oui, ouais, d'accord, fusion, ouais, très bien. Mais lui, il y va pas. Lui, il y va pas. Lui. Dati et Bournazel, ils se saquent pas, ils peuvent pas se saquer. Ils se sont envoyés des scuds depuis des années dans la gueule. Donc, il finit par s'allier avec Dati. Pourquoi ? Quand tu lis les déclarations des uns et des autres, vraiment, sur le fond et la forme, Dati et Bournazel, ils peuvent pas se berrer, quoi. Donc on sent qu'il y a un peu de la pression d'Edouard Philippe là-dessus, enfin c'est pas très clair. Et Bournazel, même pas Poupoudon, c'est même pas ça. C'est Bournazel qui veut pas y aller. Donc voilà. Et donc voilà, je regardais les cartes un instant, ça m'a fait rire. Et voilà, donc j'ai besoin de vos lumières, on va regarder ça. En tout cas, c'est une bonne nouvelle pour Dati. Il y a une fusion, effectivement, des listes Bournazel, Horizon et Dati. Et puis, du coup, ça ne fait pas tellement les affaires d'Emmanuel Grégoire, qui, lui, à Paris, ne veut pas d'une union avec LFI. Parce que tous les candidats socialistes en France... ne sont pas rapprochés d'LFI pour le deuxième tour. Voilà. Donc pour le coup, il y a une dynamique d'union là qui est plus forte du côté d'Ati. Puis après, il y a l'inconnu Sarah Knafo. Sarah Knafo, puisque Dati, a priori, ne veut pas d'union avec Sarah Knafo. Donc que vont faire les électeurs de Sarah Knafo du parti Reconquête? Chikiro a décidé de faire cavalière seule. Bah, elle n'a pas le choix. MMG. Chikirou, elle voulait faire une union de technique de liste avec Grégoire. Elle a rien décidé du tout, MMG. Pas toi, pas après tout ce que tu as fait. Elle a rien décidé du tout. C'est, elle a appelé à une union avec Grégoire, le candidat socialiste, et c'est lui qui a dit non, il n'y aura pas d'union avec LFI à Paris. Donc elle n'a pas décidé de faire cavalière seule. Elle n'a pas le choix. Donc ça va être très intéressant. Et quelque chose me dit que ça peut être très serré à Paris. Alors quelqu'un me faisait remarquer, effectivement... Quelqu'un m'a dit, j'ai ri tout à l'heure, il m'a dit « Oh, elle est bizarre, la carte de Dati. » Parce que, rions ensemble. Voilà, le Parisien, je ne sais pas pourquoi, ils ont fait un peu une carte de Paris par vote. Donc là, vous avez le vote Union de la gauche, Or et les filles, Emmanuel Grégoire. Voilà, vous avez Rachida Dati, là. Putain, mais sur cette chaîne, on ne... Alors, les amis qui nous écoutent en podcast, audio, je suis obligé de vous décrire, sinon vous êtes un petit peu de côté. Je ne sais pas pourquoi, mais effectivement, la carte du vote, là, dessine un zizi. C'est la chaîne du zizi. Je comprends. Enfin, c'est pas ma faute, hein, c'est le Parisien. Voilà. Voilà. Alors, parfois un peu dans les tons foncés, ou parfois dans les tons clairs, en fait, par opposition, voilà. Là, c'est le vote LFI, là. Voilà. Hop là. Voilà. Bon, alors, chez Bournazel, c'est plus petit. C'est moins net. Voilà. Et là, par contre, effectivement, alors chez Sarah Knafo, oui, il y a quelque chose. Mais c'est comme chez Datik, c'est plus. Ouais. Voilà. Vraiment le niveau de la communauté ici, quoi. Moi, je ne comprends pas. Hein. Je ne comprends pas. Ici, on parle poétique. On parle de choses un peu nobles, sérieuses, compliquées, éthérées, je dirais même. Et voilà. On dit, oh, la carte des votants à Paris, ça ressemble quand même à un petit... C'est pas très bien ce que vous faites. Voilà. Donc voilà pour... Voilà pour ce coup de projecteur municipal ce matin. Puis alors, on parlera aussi du Moyen-Orient. Je vous ai mis deux articles que je trouve passionnants. D'abord, ça c'est inouï, c'est Trump qui tape du poing sur la table, bam, l'OTAN de sécuriser le détroit d'Ormuz, hein, par où transite un cinquième du pétrole mondial, qui est une conséquence de la guerre en Iran et des frappes décidées par les États-Unis et Israël. Donc je récapépète, Trump avec Netanyahou décide de frapper l'Iran sans en informer ses alliés de l'OTAN. Hein, voilà. Certains d'ailleurs du coup se retrouvent en fâcheuse posture parce qu'ils ont des intérêts à voir des soldats dans la région, ou les accords de défense avec des pays du Golfe. Voilà. L'Iran fait ce qu'il fait sur les droits d'Ormuz, donc avec des menaces de tir, éventuellement même de mines. Hein, et une fois que rien ne va plus et qu'on est au bord d'une crise économique mondiale, ah bah t'as Trump qui tape du poing sur la table, qui dit « Dis donc l'OTAN, vous allez me dégager les trois d'Ormuz, hein ?» Quoi ? C'est qui ? Bah c'est Trump. Il dit que l'OTAN doit dégager les trois d'Ormuz. Hein ? Bah non, c'est un canular, c'est pas possible. Bah non, c'est lui qui a déclaré le truc. On n'a rien à voir là-dedans, nous. Non, mais je sais pas, il est tout rouge et tout énervé. Il veut qu'on dégage le truc. Bah si, il est en colère. Mais si. Qu'est-ce que je dis ? Bah je sais pas. Tu dis qu'on va le rappeler. Voilà. Oui, tout orange plutôt, oui. Donc ça, c'est assez inouï quand même. Guerre en Iran, le président américain exige de ses alliés qu'ils escortent les pétroliers et les menaces de représailles en cas de refus. Ben, d'un truc qui est une conséquence de sa guerre. Un coup de semonce qui suscite scepticisme et malaise en Europe. Voilà. J'ai tout cassé, maintenant il faut venir m'aider. Exactement. Diesel, t'as raison. Et puis on dira un deuxième papier dans L'Opinion, un journal assez libéral pour les entreprises. Voilà. Et L'Opinion qui publie chaque jour des articles du Wall Street Journal traduits en français. C'est plutôt intéressant, ça montre le regard d'un grand quotidien américain sur l'actualité. C'est à la fin des pages opinion. Et on a un papier là sur les Iraniens qui avaient espéré un changement de régime. Alors, quelle est la part des Iraniens qui espèrent un changement de régime ? Quelle est la part des Iraniens aujourd'hui qui soutiennent le régime ? C'est impossible de le dire, hein. On n'est pas dans une démocratie, il n'y a pas d'élection libre, il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas de sondage évidemment. Donc on ne sait absolument pas, mais ce qui est sûr, c'est que les Iraniens qui avaient espéré un changement de régime, eh bien, se sentent trahis. Trahis par qui ? Par Trump. Parce qu'à deux reprises, le président Trump, et ça l'article du Wall Street Journal le dit clairement, à deux reprises, Trump a promis aux Iraniens que s'ils descendaient dans la rue, eh bien, l'armée américaine viendrait pour les aider à déposer le régime. Et vous savez que ça ne s'est pas passé. Voilà, donc on lira ce papier dans le Wall Street Journal que vous pouvez trouver dans l'opinion d'aujourd'hui. Voilà les amis pour ce petit sommaire. Il est bon mon sommaire. J'espère que vous allez bien. Quelqu'un m'interrogeait sur le MVP de demain. Tu as ici la line-up de demain. Voilà. Ah, Et je viens de recevoir à l'instant la line-up de le visuel de l'invité d'Arthur Perticoz à l'instant que normalement que je suis censé recevoir le vendredi. On est mardi, 10h. Je suis vraiment taquin. Il est 10h14, tout va bien. Il est où mon Arthur? Ah, faut que je le mette sur le bureau peut-être. Hop là, ici. Arthur Perticoz. Où es-tu mon Arthur? Annulé, invité MVP, parcourir. Il est où l'Arthur? Il est là, le beau gosse. Ok, et voilà. Bim. Voilà, donc demain, 10h MVP avec Avamind, Mimi Hegel et Ludovic B. Encore une belle émission. Voilà. Et Monsieur Arthur Perticoz, sa vie, son œuvre, son histoire avec la K-Corp. Donc ça va parler de jeux vidéo, ça va parler d'e-sport, ça va parler de Kameto, ça va parler de la place de l'e-sport et du jeu vidéo dans notre société, bien sûr. Et puis ses projets aujourd'hui, puisqu'il est passé à autre chose. Et donc Arthur Perticoz, notre invité, demain à 12h. Arthur Perticoz, je me demande s'il ne sera pas au Festival MVP d'ailleurs. Ouais, voilà. Donc ça, c'est la line-up de demain. 8h30, demain matin, mercredi, la revue de presse. 10h, MVP, avec toute la bande, là. Et la première fois de Avamind dans MVP. Et 12h, Arthur Perticoz, l'entrepreneur, puisqu'en fait, c'est un jeune chef d'entreprise. Hein. Le Arthur. C'est beau ou c'est pas beau? Voilà. Donc demain matin, la revue de presse sera un petit peu plus courte. Je vous lis, puis on va démarrer cette revue de presse. Au moins, tu l'as reçu, le visuel, pas comme un certain questionnaire. Ah si, je l'ai reçu, le questionnaire de la commission d'enquête. Mais après mon audition, c'est ballot. On y va? Vous êtes prêts pour la revue de presse? Les choupitous? Non, mais il y a plein de questions intéressantes en plus, c'est dommage. Peut-être qu'ils vont me réinviter. On y go? Ok. Ah, j'ai tellement aimé le live Fortnite hier soir que j'aurais bien recommencé ce soir, mais je pense que ce soir je vais être sur l'écriture d'MVP. Ouais. Ouais. On y go? Allez, c'est parti. Et merci d'être là, ça me fait trop plaisir de parler d'actualité tous les matins avec vous. On va commencer avec une nouvelle page municipale, parce que c'est quand même essentiel, et en vrai c'est assez passionnant. Avec un article du Monde, qui est sorti hier en début d'après-midi, donc c'est hier en début d'après-midi, c'était lundi, donc c'est le premier papier du Monde sur le sujet post-premier tour. Et le Monde qui nous parle d'une nouvelle donne politique. Enfin, c'est moi qui le dis, mais c'est pas tellement une nouvelle donne politique d'ailleurs, mais c'est plus ce que je vous disais, ce qui est intéressant, c'est municipal, c'est que certes c'est un scrutin local, mais c'est aussi une photographie à l'instant T de l'état de l'opinion finalement, avec des tendances. Et là, par exemple, oui, c'est un scrutin déjà tourné vers les présidentielles, parce que la présidentielle, elle va arriver à grands pas. D'ailleurs, à un moment, il faudra décider ici si j'y vais ou pas. Hein. Est-ce que je reste commentateur et observateur de la vie politique, ou est-ce qu'on tente pas notre chance, nous aussi, hein, tous ensemble, il est où mon De Gaulle ? Hein, est-ce qu'on va pas à la présidentielle pour l'exclamation 2027? Mais dans ce cas-là, ça voudrait dire qu'il faudrait construire le projet, réfléchir ensemble, faire tous les jours des streams de construction programmatique. Hein. Donc c'est beaucoup de boulot. Après, il faudrait chercher les 500 signatures. Voilà. Et Fortnite dans tout ça. Hein, tu as un enfant de 15 jours, t'as pas un peu mieux à faire que les présidentielles? Lige dans le chat. Hein, avec un troisième enfant, c'est compromis. Mais oui, mais justement. Justement, pour que leur avenir soit lumineux, hein, voilà, pour que l'avenir soit lumineux, pour que la France dans laquelle ils vont grandir et s'épanouir soit belle, voilà, vivante, en forme, en pleine forme. Voilà. Donc voilà, peut-être, oui, peut-être qu'il faudrait que je voie ça. Tu sais, Macron, il a pondu son projet en 15 jours, en dernière minute, en 2017. T'es sûr de ça? Je sais pas. Non, on n'y va pas trop de problèmes, mais on peut quand même faire des live construction d'un programme. Je sais pas. Je sais pas. Sinon 2032?
Je sais pas, je sais pas. Je sais pas. Je vais. C'est une décision que j'ai à prendre. C'est une décision que j'ai à prendre. Faut que je vois, faut que je vois.
En attendant, penchons-nous sur le premier tour des municipales. Un scrutin déjà tourné vers la présidentielle, écrit donc Le Monde. L'entre-deux tours va s'imposer comme le laboratoire des rapports de force politique pour l'élection de 2027. Ils étaient nombreux, dimanche, à se projeter bien au-delà des résultats du premier tour des municipales. Le président du RN, Jordan Bardella, par exemple, n'a pas tardé à mettre dans la même phrase ces deux échéances. Le changement n'attend pas 2027, il commence dès dimanche prochain. Bon, ceux qui disent que cette élection est strictement locale, non, évidemment, elle a des conséquences politiques nationales, vous l'avez bien compris. Ener Eternititi, merci. Qui Chorju, merci beaucoup. Bimbo Jet, merci beaucoup. La petite Mimi TV, j'adore ton pseudo, merci pour le soutien. Michemouche Le Vrai, merci beaucoup. Merci Joblark, merci Raven Club, merci Exelou, merci Valsnoub, vous êtes incroyable. Donc, c'est bien une élection avec des conséquences nationales. Pour les états-majors des partis, écrit Le Monde, l'élection présidentielle se prépare dans cet entre-deux-tours qui s'est ouvert dimanche comme un laboratoire des rapports de force. C'est ce que j'appelle une photographie à l'instant T du paysage politique français. De quoi poser un paysage? Le Monde dit la même chose que moi, hein, c'est fatigant. Dessiner les contours d'alliances futures. Un paysage qui renoue beaucoup avec le clivage droite-gauche sur fond d'effacement du parti présidentiel Renaissance, alors ce qu'on pourrait appeler la Macronie, en fait se délite, hein, mais ça depuis un long et lent processus. Que reste-t-il de la Macronie, quoi, aujourd'hui? Et que restera-t-il de la Macronie après ce deuxième mandat du président Macron, quand il ne sera plus au pouvoir, quoi? Pendant une semaine, extrême droite et droite vont tester leur alliance, où le maintien d'une paroi de moins en moins étanche entre elles, tandis qu'à gauche, le PS, qui semble en mesure de préserver son ancrage local, devra composer avec la percée de LFI dans des villes et des métropoles, comme à Roubaix, comme à Marseille, en passant par Toulouse. Parfois pris en tenaille dans ce double enjeu, gagner des villes d'un côté, se mettre en ordre pour 2027 de l'autre, les cadres des partis se sont empressés dimanche de prendre la parole pour être les premiers à tirer les leçons du scrutin, imposer leur grille de lecture et envoyer quelques messages à des rivaux parfois vite devenus de potentiels alliés. Par exemple, Jordan Bardella, deux points ouvrez les guillemets, partout où le contexte local le permet, le RN tend la main aux listes de droite sincères, aux listes indépendantes et à tous ceux qui refusent le désordre de l'extrême gauche et la dilution dans le macronisme. Alors il y a un papier ce matin que je vous ai pas lu, que je vous ai pas mis de côté, mais j'aurais pu vous le mettre. Je peux vous le montrer vite fait, selon le Parisien, je ne dis pas de bêtises, qui dit que l'appel de Bardella, il n'a pas rencontré de succès, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'élus de droite, voilà. J'aurais pu vous le mettre de côté, mais je ne vous l'ai pas mis. L'appel de Bardella fait chou blanc. Ce lundi, le RN n'avait pas encore réussi à convaincre certaines listes de droite ou indépendantes de se rapprocher de lui pour faire barrage à l'extrême gauche. Voilà. Donc c'est évoqué ici rapidement dans l'article du Monde. Du côté des Républicains maintenant, Bruno Retailleau, lui a répondu sur un ton moins allant, appelant au grand rassemblement des électeurs de droite derrière nos candidats qui sont en mesure de battre la gauche ou le RN. Retailleau, patron de LR, il appelle au rassemblement contre la gauche ou le RN. Moi j'ai vu cette déclaration hier et j'ai dit, bon bah Retailleau est assez clair. Il y a toujours la frontière. Il n'y a pas de fusion de la droite et de l'extrême droite. Et puis, dans le chat, hier, notamment certains à l'origine du fameux scandale, ont dit « Ah, mais c'est pas si clair que ça, Retailleau, il a fait une autre déclaration où il est pas si clair que ça sur le RN. » Et on lira tout à l'heure un papier là-dessus. Ah bah d'ailleurs, le Monde en parle déjà. Néanmoins, Retailleau a laissé une porte entrouverte en direction de l'extrême droite en désignant le parti des Insoumis comme étant la pire des gauches et le seul véritable ennemi. Deux points, ouvrez les guillemets. De Retailleau a dit deux choses, en fait. Et à deux moments différents. Il a dit, certes, il faut un grand rassemblement des électeurs de droite derrière nos candidats qui sont en mesure de battre la gauche ou le RN, mais il a aussi dit, Chalumeau dit, ah ben s'il éclaire une fois, ça suffit, non? Ben, le problème, c'est s'il éclaire une fois, et qui dit un truc, mais 10 minutes après, il éclaire une fois, mais qui dit l'inverse, non, ça suffit pas. Hein? Imagine, je sais pas, tu rencontres ton patron à café, tu lui dis, bon, on est d'accord pour l'augmentation à 8h10. Il dit, bah oui, bien sûr. Voilà. Et tu le revois à 9h15, Et alors, c'est toujours bon pour l'augmentation. Il dit, ah ben non. Donc, dans les deux cas, c'est sûr, si tu veux. Mais ça pose question, quoi. Donc, effectivement, il a dit à un autre moment, la seule consigne que je donne, c'est aucune voix pour LFI. Ah. Effectivement, le monde estime, et il n'est pas tout seul, que ça laisse une porte ouverte à l'extrême droite. Ça joue un petit peu sur les mots. Sérieux, vous apprenez seulement maintenant les convictions de Retailleau ? Bah, c'est parce qu'en fait, ici, on essaie de faire ma faléa d'amour, plutôt du journalisme et pas du militantisme. Moi, je ne suis pas là pour vous dire ce que je pense des uns des autres. Je suis là pour vous donner les infos, quoi. Après, vous en faites ce que vous voulez, hein. C'est désormais un discours bien installé au sommet de LR, estime le monde. Souligner le risque LFI pour mieux taire l'enjeu du rapprochement avec le RN ou Reconquête, comme lorsque pendant la campagne, M. Retailleau dénonçait les accords de la honte entre le PS et LFI. Donc on a vu Bardella, qui a lancé un appel avec l'hélice de droite qui n'a pas été entendue, Retailleau qui est un peu ambigu, nous explique le monde, et maintenant pour les socialistes, parce qu'on va beaucoup parler aussi des socialistes et de LFI ce matin, c'est des choses qui ne sont pas très claires non plus. Pour le parti à la rose, assumer une ligne claire vis-à-vis des insoumis, après avoir multiplié les alliances nationales entre 2022 et 2024, peut avoir valeur de test, voire devenir un élément d'identité politique. C'est en tout cas le souhait qu'a fait Raphaël Glucksmann de Place Publique dimanche soir. Si on veut être la digue qui empêche la bascule dans les mains du RN, merci la petite Mimi, alors il faut que l'on soit capable de respecter nos principes, de montrer que la gauche républicaine ne cédera pas aux sirènes de LFI. Alors c'est là où ça devient compliqué à gauche. Mais la rupture avec le mouvement de Jean-Luc Mélenchon a un prix électoral. Aussi, le premier secrétaire du PS, Olivier Faure, s'est-il pour sa part contenté de marteler qu'il n'y aurait pas d'accord national entre le PS et LFI. Et c'est toujours pareil. Il faut aller un tout petit peu au-delà de la déclaration. C'est comme pour M. Retailleau. Dire très solennellement dans la bouche d'Olivier Faure, patron du PS, il n'y aura pas d'accord national entre le PS et LFI, ça veut dire quoi ? Bah, ça veut dire que si on écoute bien et qu'on veut lire entre les lignes, qu'il y aura peut-être des accords au niveau local. C'est juste qu'il n'y aura pas d'accord au niveau national. Eh oui ! Et quand on a lu cette déclaration, je crois que c'était dimanche soir, on s'est dit, ah ouais, bon, ok, il n'y aura pas d'accord, ok, c'est clair, c'est net. Et il n'y aura pas d'accord national ! Mais il y aura peut-être des accords locaux, mais ça, il ne le dit pas. Mais c'est ce qui est en train de se passer. Et ça fait débat. Demandant aux socialistes, a dit Faure, de rassembler dans la clarté, de veiller au respect des principes et de nos valeurs. Vive le RN, expulsez tous ces clandos de merde. Arnaud Nucléaire, vous savez, vous faites beaucoup de mal au RN, hein, avec des déclarations comme ça. Il faut vraiment élever votre niveau de jeu, les gars. Marine Le Pen passe devant ce stream, elle te lit à nos nucléaires, elle se prend la tête entre les mains, elle dit mais c'est pas possible, mais qu'est-ce qu'ils sont cons, mais on va jamais y arriver, quoi. C'est quoi ton message? Vive le RN, expulsez tous ces clandos de merde. Si Marine Le Pen passe devant ce stream, elle va s'arracher les cheveux. Vraiment, vous lui félicitez pas la tâche, les gars, faites un effort. Oh là 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 là, comment voulez-vous qu'ils y arrivent? Bon, continue. Donc Olivier Faure a demandé aux socialistes de rassembler dans la clarté et de veiller au respect des principes et de nos valeurs, une formulation qui laisse la place à des négociations ville par ville, c'est ce que je vous disais à l'instant. Cette mise à distance toute relative de LFI devra passer l'épreuve des exigences des insoumis qui détiennent, vu leur score à Marseille notamment, un certain pouvoir de nuisance. Il y a un monde où Marseille peut encore basculer du côté du RN. Le coordinateur national du mouvement, Manuel Bompard, donc on parle de LFI, a posé ses conditions, saluant une progression remarquable des candidats à LFI, il a appelé à la constitution d'un front antifasciste au second tour. Passant par des fusions... Pardon, excusez-moi. Je goûte votre humour. D'un front antifasciste au second tour, passant par diffusion, en aucun cas par le désistement de ses candidats, comme le veut l'usage à gauche en vertu du front républicain. Donc je relis cette phrase calmement parce que c'est intéressant. Bompard de LFI, il dit quoi ? Voilà. Il a appelé la constitution d'un front antifasciste au second tour, donc union technique, pas programmatique, mais technique, des listes de gauche, en passant par des fusions, mais en aucun cas par le désistement de ces candidats comme le veut l'usage à gauche en vertu du Front Républicain. Paris, par exemple. Emmanuel Grégoire, le candidat de la gauche hors LFI, arrivé en tête au premier tour, dit qu'il ne veut pas de fusion avec la liste de la candidate LFI, Sophia Chiquiro. Que va faire Sophia Chiquiro? Est-ce qu'elle va se désister? Auquel cas, une partie des voix qui se sont portées sur elle au premier tour pourrait aller vers Emmanuel Grégoire. Où va-t-elle se maintenir? Auquel cas, elle prend un risque fort de faire passer Rachida Dati. Voilà. Ça y est, elle a annoncé se maintenir. Elle a déposé sa liste hier. Elle se maintient. Okay. Alors, elle avait tendu la main à Emmanuel Grégoire. Hein. Elle avait dit, bon, bah, ouais, faisons la fusion. Et Emmanuel Grégoire a dit, non, on ne ferait pas la fusion. J'ai dit que je ne ferais pas la fusion. Je ne la fais pas. Elle se maintient. Voilà. Bah, le match... et d'autant plus serré à Paris. D'un côté, on a Dati qui a réussi à faire l'union avec Bournazel. Voilà. De l'autre, il y a une fusion qui ne se fait pas, parce qu'Emmanuel Grégoire n'en veut pas, entre la gauche hors LFI et LFI. C'est pour ça que le scrutin, le deuxième tour à Paris, va être vraiment intéressant. Ça va dépendre du report de voix Chiquiro, Knafo vers les deux. Me dit Sugar, oui. Oui. C'est vrai. Entre messages cachés et invectives, le dialogue de la gauche sur les plateaux, parce que le dialogue de la gauche depuis des années, c'est très compliqué en France, dimanche soir laisse augurer de nombreux retournements d'ici au dépôt des listes pour le second tour mardi soir. Ce soir, 18h, je crois, si je ne dis pas de bêtises, c'est la dernière limite pour que les listes soient déposées pour le deuxième tour. Et on saura ce soir à 18h, donc les journaux de demain matin seront très intéressants. Où il y a union, où il n'y a pas union, qui se maintient, où il y a des triangulaires, des quadrangulaires, etc. Crucial ville par ville, ces discussions ou leur absence de discussion laisseront des traces en vue de la présidentielle. C'est tout l'intérêt de cet article. Parce que là, évidemment, les conséquences de tout ce qui est en train de se passer ne vont pas s'arrêter dimanche soir à 20h. Et donneront une idée du rapport des forces entre les gauches. Ouais. Et vu que c'est bien tendu entre le LFI et le reste de la gauche, enfin surtout les socialistes, parce que par exemple au niveau municipal, il y a beaucoup d'accords LFI écologistes, ça ne va rien arranger pour 2027. Pendant que la droite gère son rapport au RN, que les socialistes et les filles se déchirent, le bloc central manquerait presque à l'appel. Hein, donc on va parler d'Horizon, on va parler de Renaissance, tout ça. Hein. C'est pas très en forme tout ça. Hein. Si Édouard Philippe Horizon semblait en posture favorable au Havre, l'ancien camp présidentiel, hein, ce qu'on a appelé la Macronie, qui perdurait encore aux législatives anticipées 2024, sera absent ou une force accessoire dans la plupart des second tours les plus regardés. Voilà. Longtemps principal animateur de la rhétorique de l'arc républicain, excluant et l'extrême droite et LFI, le parti présidentiel semble désormais hors jeu d'une confrontation gauche-droite qui se joue beaucoup sans lui. Le secrétaire général de Renaissance, Gabriel Attal, a eu beau commenter la progression inédite de l'extrême droite et de l'extrême gauche dans cette élection municipale, son parti n'est plus en position de jouer les arbitres. Une autre leçon des municipales qui pourrait peser lourd en 2027. Notamment pour les candidats de cette partie du paysage poétique français. Ouais. Je pense par exemple à Édouard Philippe. Ouais. Quid des chances d'Édouard Philippe en 2027? Je vous lis. Il y a combien de tours à la présidentielle, prof endormi? 2 tours. Je vous lis. Vous êtes nombreux à dire comme Moulbit, on serait presque à souhaiter un tour unique pour éviter les magouilles, alliances et cercles politiques. On saura quand pour CNAFO ben, si elle ne l'a pas déjà déclaré, parce que parfois je loupe des infos, 18h ce soir, mardi. Samuel, si tu te présentes au présidentiel, sous quel parti politique serait-ce? Les Samuelos, Natsuko. Ce sera, je créerai un parti. Il faudra trouver son nom d'ailleurs. Voilà. Les Chibrax, enfin on trouvera un nom. Non, ce sera mon parti, ce sera mon parti, ce sera nos idées. On va construire le programme ensemble, ici, sur Twitch. Voilà, on aura des débats quotidiens sur les sujets de société, les sujets économiques, les sujets de sécurité, les sujets, tous les sujets. On essaiera d'écrire ensemble un programme. Ce sera assez intéressant d'ailleurs. Et puis après, on fondera un parti. Oh, le bordel! Du coup, ça donne des messages un peu étranges dans le chat, comme de Felotte à l'instant. Bienvenue. Je serais extrêmement fier d'être un Chibrax. On pourra parler anarchie? On pourra parler anarchie. On pourra parler d'anarcho-trotskisme, même si tu veux. Si tu te présentes pour les ministres, tu choisis comment parmi les viewers? Plutôt parmi les copains streamers. Et toi, la culture, tu vois, PA, Domingo à l'économie, Tonton au sport, qui on pourrait mettre Angle droit à la justice, tu vois. Zerator, bon Zerator, on le trouve à un poste. Ouais. Qui on pourrait mettre porte-parole? Porte-parole, il faudrait quelqu'un un petit peu à l'aise. Oh, je verrai. Oh, moi j'aimerais bien. Ah non, remarque, elle voudra peut-être pas. Little Big Whale, porte-parole. Ou Jean Massier. Ah, Jean Massier, plutôt ministre des relations avec le Parlement. Mm. Ah, Zera, Premier ministre, ouais. Pourquoi pas? Ou Joe. Mm. Trivia la culture. Ah, mais je comptais donner le portefeuille à Étoile. Sylvain, livre au ministère des Transports, validé. Ouais. Rivenzi aux anciens combattants, validé. Viktorovitch, porte-parole, c'est pas con. Mettez-moi des streameuses aussi. Hein. Faut pas que des gars, hein, attention. Hein. Il y a que je vois que des gars, là. Bon, on a cité Florence, on a cité Angle droit, on a cité Trivia. Douag en porte-parole. Ouais, il me faut la ministre de l'e-sport aussi. Kameto, ministre de l'e-sport. Bim, ça c'est sûr. Hein. Magla, la santé. Mais pourquoi Magla? Je vois pas. Bagheera, ministre de l'Europe. Bagheera, ministère du rire. Alex Hitchens à l'égalité homme-femme. Oh 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 oh. Les fous du bus. Ninion aux affaires étrangères. Très bonne idée. Magla au sport. Non, tonton. Ava à la jeunesse. Ok. Gotha aux armées. Gotha aux armées. Vendu. Ok. Gotaga aux armées. Tonton est suisse. Oui, alors. Je crois que c'est possible. Je suis pas sûr que le ministre doive être de nationalité française. Je sais pas, il faudrait qu'on vérifie ça d'ailleurs. Mais c'est vrai qu'il est suisse, t'as raison. Oui, Eva Jolie. Oui, Eva Jolie a été ministre. Elle, quelle nationalité, Eva Jolie? Vous êtes fort, hein. Oh, ils sont forts. Oh, ils sont forts. Ouais, Eva Jolie a été ministre. Elle a été ministre de quoi, Eva Jolie? De l'environnement, non? Attendez, je vous montre ça. Alors, présidente de la commission, blablabla, députée européenne, ok. Ah, elle n'a pas été ministre? Merde. Si, elle a été ministre. Pourquoi c'est pas marqué, là? Bah, vous êtes ministre, non? Vous êtes ministre? Elle avait des ministres? Merde, ah, elle n'a pas été ministre. Moi, je confonds. Ah non, elle n'a pas été ministre. Elle n'a pas été ministre. Ouais. Elle est franco-norvégienne. Quelqu'un me dit, ah mais elle est française. Elle est franco-norvégienne. Ok. Il faudra que je demande à tonton s'il est franco-suisse ou pas. Ok. Bon, on a le temps d'en parler. Hein. Faut que je me décide là-dessus. Je reviens à mon article. Qu'on a lu. Il est franco-suisse ? Eh ben, c'est bon. Franco-suisse, tonton, au sport. C'est validé. Deuxième sujet, et on a commencé à en parler, et on parlera aussi de LR tout à l'heure, mais on va se pencher un petit peu sur les socialistes, parce qu'il y a beaucoup d'articles et pas mal de critiques sur ce qui se passe en ce moment entre les socialistes et les LFI. C'est l'heure des petits calculs dont parle le Parisien, ici en sa une, hein. Excepté à Paris, où là, il n'y a pas d'accord. Marseille, où il n'y a pas d'accord. Lille, il n'y a pas d'accord. Les socialistes et les insoumis ont scellé de nombreux accords au niveau local, municipal, pour le second tour. Voilà. Oubliant querelles et invectives des semaines passées qui vont sans doute reprendre dès dimanche soir à 20h. C'est comme ça. Alors, il y a un article, par exemple, un édito d'Olivier Auguste. Un édito, c'est un article où un journaliste donne son avis. Tu vas mettre quoi sur YouTube ? Rien. Ouais, je trouve qu'il n'y a rien pour YouTube. Si, peut-être Trump, les trois dormouses, peut-être. Ok. Tout en temps, on a des petits extraits de la revue de presse sur YouTube. Alors, qu'est-ce qu'il dit Olivier Auguste ? Déjà, méfions-nous d'une personne dont le nom de famille est un prénom. Hein. On les connaît, les Olivier Auguste. Hein. Les. Comment il y a des tueurs en série qui, comme ça, qui ont des noms de famille, c'est des prénoms. Comment il s'appelle déjà ? Tu sais. Émile Louis. Patrick Sébastien. Non, Patrick Sébastien, non. Non, Hugo Clément. Non, tueur en série, je dis. Émile Louis. Voilà. Guy Georges, voilà. Samuel Etienne, voilà. Donc méfions-nous déjà de ces gens-là. Hein. La droite peut à l'issue du premier tour des municipales soupirer, dit-il. Alors que l'étanchéité avec le RN devenait une norme affichée de plus en plus mollement, les résultats ont évité de devoir se poser la question de son application concrète pour le second tour. Ah, c'est marrant. C'est intéressant ce qu'il dit. Olivier Auguste, il dit, finalement, la droite n'a pas tant à se poser la question de l'alliance avec le RN parce qu'il n'y a pas tellement de villes où c'est nécessaire pour la droite. La droite peut, à l'issue du premier tour des municipales, soupirer. Alors que l'étanchéité avec le RN y devenait une norme affichée de plus en plus mollement, les résultats ont évité de devoir se poser la question de son application concrète pour le second tour. C'est intéressant. Un sursis qui ne durera peut-être qu'un an jusqu'à la présidentielle. À gauche, en revanche, les masques tombent. Pas tellement celui de Marine Tondelier, puisque la patronne des écologistes a toujours évité de couper les ponts avec LFI. L'étonnant est donc moins que les écolos fusionnent avec les insoumis face à la droite, comme s'est acté à Besançon par exemple, mais que cela soit aussi envisagé pour faire tomber une liste PS arrivée en tête, comme cela se fera à Strasbourg et a été envisagé quelques heures à Lille. Côté PS, seuls ceux qui ne parlent pas couramment le fort, le Olivier fort, seront surpris. Il est vrai que la langue du premier secrétaire est complexe, tout en non-dits et contradictions. Plus ils s'élèvent contre la violence verbale des mélenchonistes, refusent leur ligne, dénoncent leur fréquentation, pardon, et leur ambiguïté sur l'antisémitisme, moins il parvient à affirmer qu'il exclut une alliance avec eux. Ce qui devait arriver arrive donc, de Lyon à Avignon, en passant par Toulouse ou Limoges, le PS et LFI sont associés au second tour. Alors qu'Olivier Faure, le premier secrétaire du Parti Socialiste, a dit « il n'y aura pas d'alliance entre le PS et LFI », mais il a dit « au niveau national ». Et là, on n'est pas au niveau national, on est au niveau municipal. Malin que ce lynx. Alors, pas pour sauver des sièges, bien sûr, mais pour terrasser le fascisme que les filles vont incarner ici sous les traits d'un Moudin et d'un Aulas ailleurs. Vous avez compris que le journaliste se moque un petit peu. Les principes ne sont bons que lorsqu'ils engendrent des actes, aurait dit un jour Vincent Van Gogh. Voilà. Qu'en dit Olivier Faure, qui semble encore plus proche de la girouette que du tournesol. Il donne un petit peu le ton, cet édito. Allez, on dit.
Il y a beaucoup d'articles ce matin qui disent, bon, socialiste, il faudrait vous mettre un petit peu au clair quoi, par rapport à LFI. Vous alliez pas, quoi. C'est pas quand ça vous arrange. Olivier de Carglass. Non, Olivier Auguste. Voilà, il y a Vandereco qui a écrit... Yandereco, bordel, ça fait mal d'être votant à gauche quand tu vois que ça préfère se tirer dans les pattes et rester obtus des deux côtés entre le FI et le PS que de maximiser le passage de la gauche face à l'extrême droite. Il y a un foreur qui dit il y a quand même un certain parti pris dans la confusion de cet article et un manque d'objectivité. Alors, Olivier Auguste n'est pas, pense pas qu'il soit un militant LFI, mais pourtant, finalement, ce qu'on vient de lire là, on pourrait beaucoup l'entendre dans la bouche de militants LFI, ces accusations vis-à-vis du PS. Il y a Poupouton dans le chat qui dit « Le PS est sa veste réversible bien molletonnée ». Alors ça, c'est l'édito, c'est l'avis de monsieur Olivier Auguste. Ils ont maintenant le papier avec les infos. Hein. Et après, vous avez les éléments de réflexion et vous faites votre propre opinion. Guerre des nerfs à gauche, donc ça, c'est difficile de contester. Dès dimanche soir, les quatre partis de gauche, donc socialistes et les filles communistes écolo, ont multiplié les réunions pour tenter de se retrouver dans certaines villes, parfois au prix de leurs promesses. Voilà. Lisons. Merci Papa Crux. Merci Stilicilou. Merci Princesse Fiona. Merci pour les soutiens. Gueule de bois au PS lundi matin. Des potrons minaient, tôt le matin. Certains hauts dirigeants du PS ont découvert la fusion de la liste de leurs candidats à Toulouse, François Briançon avec celle de l'insoumis François Picmal qui va tenter de faire basculer la ville rose à gauche. Cet accord rapide entre un socialiste et un insoumis qui, pourtant se vouait aux gémonies il y a encore quelques semaines, a lancé une journée folle de négociations, scrutées parfois heure par heure entre les forces de gauche, surprises par les bons résultats des candidats de LFI, parce que c'est vrai que LFI... qui est un parti qui est très peu implanté au niveau local, comme le RN d'ailleurs, a progressé un petit peu à ses municipales, comme le RN d'ailleurs. Et le PS ne s'attendait peut-être pas, c'est ce qu'on s'est dit hier déjà, à de si bons scores des candidats LFI. Cette donnée inattendue a mis un sacré bazar au PS, qui deux semaines plus tôt avait dénoncé dans un communiqué les propos complotistes et antisémites de Jean-Luc Mélenchon. Ça, c'est le communiqué du Parti Socialiste. Dimanche soir encore, Olivier Faure, le patron du parti, jugeait ses grands dieux qu'il n'y aurait pas d'accord national avec LFI. Résultat lundi, les insoumis et les socialistes ont fusionné à Toulouse, à Limoges, à Avignon, à Nantes, à Grenoble et s'apprêtent à le faire dans d'autres villes. On fera le point demain parce qu'à 18h, on devrait connaître toutes les listes aujourd'hui. C'est le Dawa. Relate un ancien dirigeant socialiste, sur le terrain chacun fait ce qu'il veut, les injonctions de François Hollande ou de Raphaël Glucksmann de ne pas s'allier aux troupes de Mélenchon n'ont donc pas été entendues, sauf à Paris, il n'y aura pas d'alliance à Paris, ou à Marseille, il n'y aura pas d'alliance non plus, où Emmanuel Grégoire et Benoît Payan feront sans les mélenchonistes. Emmanuel Grégoire à Paris aurait pu accepter la fusion proposée par Sophia Chikirou, et Benoît Payan aurait pu accepter aussi la fusion qui lui était proposée aussi avec LFI, mais ils ont dit non. On avait dit non, ce sera non. À Amiens aussi, le socialiste Frédéric Fauvert a écarté la tambouille électorale. Nous avons besoin de cohérence, d'efficacité, pas de petits arrangements dans le dos des électeurs. Hein, c'est pourquoi notre liste restera au premier et au second tour. Mais dans d'autres villes, les ennemis d'hier ont fait table rase du passé en une poignée de secondes. Comme à Brest, où le maire socialiste François Cuyandre, ami de François Hollande, qu'il a eu au téléphone lundi matin, s'est résigné à trouver un accord avec LFI. « J'en suis tombé le cul par terre !» confesse le président du Parti radical de gauche, Guillaume Lacroix, qui, en guise de protestation, a fait retirer ses candidats. Je ne l'avais pas vu venir, ils n'avaient jamais vu la droite si haut, donc ils ont pris un coup de chaud. C'est ce qui s'est passé à Brest. Salut Palulu, qui nous regarde depuis Brest. La direction du PS, elle, n'a pas toujours la main sur les accords locaux. Toutes les réunions de négociation ont lieu dans les communes, explique un dirigeant socialiste. Même les négociateurs de nos courants internes sont très discrets parce qu'ils sont tous divisés. On ne sait pas comment les choses vont se terminer. On a un regard sur ce qui se passe, mais on n'a aucun contact avec les insoumis au niveau national. Ambiance entre le PS et LFI, quoi.
Un certain embarras que n'ont pas manqué de relever leurs partenaires. Le score de Leffy les met dans une seringue plus compliquée que prévu, explique un cadre des Verts. Dans le même temps, les fusions se sont aussi multipliées entre écologistes et insoumis. Parce que un article rappelait tout à l'heure que Marine Tondelier, la patronne des Verts, n'avait jamais coupé les liens avec LFI. Des accords notamment à Lyon, Strasbourg, Besançon et Tours. Une bonne partie de la journée a été occupée par la négociation à Lille, où l'écologiste Stéphane Bally, troisième au premier tour, a fait l'objet de toutes les convoitises de la part des insoumis et des socialistes, l'occasion d'une grande séquence de bras de fer et d'intox. Dans l'après-midi, le député LFI Aurélien Lecoq relance la pression. Nous proposons aux écologistes une parité complète des élus à Lille. Ça va être intéressant de savoir ce qui va se passer à Lille. Nous avons un accord sur l'ensemble des points programmatiques. Les conditions nous semblent réunies. Voilà. Coup de bluff. Ah non, on a l'info à Lille. Car Bally a finalement annoncé hier vers 18h qu'il fusionnait avec le maire socialiste sortant Arnaud Deslandes. Donc, Bally écologiste, qui avait été dragué aussi par les LFI, fusionne avec les socialistes. Merci Citron Violet. Notre ami streamer français au Japon. Voilà. Je sais pas si on l'a déjà leak Citron Violet, mon ami, mais leakons, on aime les leaks ici. On aime les gros sommaires et on aime les leaks. L'ami Citron Violet, il va passer en France dans quelques semaines et il sera notre invité dans Ça me plaît. Voilà. Et il viendra nous parler du Japon, de jeux vidéo, etc. Je crois que je ne l'ai jamais annoncé. Voilà. Coucou, bon live à tous, j'ai un peu teasé. T'as teasé un peu ? Bah comme ça, nos deux communautés sont au courant. Eh oui ! Et ça va être super sympa. Tu pourrais ramener des petits... Au Japon, ils ont des petites sucreries un peu... qu'on n'a pas nous. Tu sais, moi j'aime bien les trucs bizarres. Ils ont des petits gâteaux sous vide parfois, là, tu sais, un peu... Tu pourrais me ramener des petits trucs un peu bizarres ? Oui, il y a les Kit Kats aléatoires, mais moi, j'aime pas trop... Moi, j'aime de moins en moins le sucre. Kit Kat, c'est trop sucré. Tu vois, mais parfois des couleurs un peu bizarres. Ouais. Le melon panne, ouais, ça me dit quelque chose, ça. Voilà. Non, pas salé. Mais sucré, mais pas trop sucré. Les mochis sous vide, tout bizarre, ça j'aime bien. Merci encore de l'invitation. Vas-y, je te rapporte un panier garni de trucs chelous. Voilà. Alors plutôt pas salé, sucré, mais pas trop sucré. Non mais qui passe commande ? Voilà. Ou alors des pastéis de nata. Tu sais, les petits flans là, portugais. Ça j'aime bien aussi. Ah oui, mais non, mais t'en as peut-être pas au Japon, toi. Oui, les petits flans là, portugais. Pastéis de nata. C'est pas un flan? Si, c'est un petit flan. Comment ça, c'est pas un petit flan, c'est un trésor national? Non. Si, c'est un... Alors, les Portugais disent pas chez Nat, mais c'est un petit flan. C'est un flan, c'est juste qu'ils l'ont fait en petit. Il y a quelqu'un qui me dit, mais Samuel, c'est une référence. Ah bon ? Ah bon, c'est une rêve, ça ? Ah bon ? Pas chez Génata, le petit flan, c'est une rêve ? Pas au courant, du tout. On revient à la politique, bande de beaux gosses. Un petit flan, hein ? C'est juste qu'il est plus petit, quoi. Ah, je vous kiffe. Et l'autre qui dit, mais Sam, c'est une rêve d'Internet, tu l'as pas ? Oh là là, qu'il est nul, c'est le vieux, là, il comprend rien. Il a deux doigts de nous montrer encore son zizi. Ah ! Que personne n'a vu, hein, je le rappelle. C'est une fake news. Pour l'exclamation ZZGate dans le chat. Voilà. Pour tordre le cou aux menteurs d'Internet. Un jour, on ira les voir IRL, ça rigolera moins. Voilà, donc à Lille, effectivement, Alliance, ok. Écologiste et socialiste. Voilà. Et après, on va aller faire un petit coucou aux amis de LR. Parce que là, on a vu les socialistes. Je vous lis un petit peu et on enchaîne. Du côté de Lille, on nous regarde ce matin. Jérém nous dit la plupart des électeurs écolos de Lille ont voté pour LFI. C'est très contesté l'alliance avec le PS. Salut Katenoubi, tu vas bien ? me signale, les statisticiens de Twitch viennent de m'envoyer un message à l'instant, selon lequel... Selon lequel, je reçois en même temps des photos du voyage de classe de mon grand qui est parti en Angleterre une semaine, là, c'est... selon lequel, tous les viewers portugais auraient quitté ce live. Alors, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas ce qui s'est passé. Alors, je vous lis un petit peu sur le PS et LFI et on enchaîne. Natsuko, bonne réunion. Ok. As-tu vu le nom des candidats à la mairie d'Arcy sur Aube? C'est quelque chose? Non? Tu m'intrigues. Comment ils s'appellent les candidats? Il y a un candidat qui s'appelle Samuel Etienne ici? Il a gagné ou pas? J'espère qu'il a gagné. Hein. Ça se trouve, je suis élu maire, c'est ça? Je suis élu maire? J'ai le droit à mon écharpe? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Quoi? Ah non, je peux pas... Quoi? Municipal 2026, Hitler et Zelensky se retrouveront face à face au second tour dans cette commune du Grand Est? Qu'est-ce que c'est histoire de... Qu'est-ce que c'est histoire? Dimanche prochain à Arcy-sur-Aube, un candidat nommé Hitler... Vous allez encore m'attirer des problèmes. Vous allez encore m'attirer des problèmes. C'est quoi? C'est une sauce par semaine? C'est ça? Hein? Alors que je suis en train d'essayer de perdre un petit peu du poids pour être beau cet été? Comment voulez-vous avec toutes ces sauces? Dimanche prochain à Arcy-sur-Aube, un candidat nommé Hitler affrontera un certain Zelensky lors du deuxième tour des municipales. Une coïncidence de non surprenante aux échos historiques et géopolitiques qui placent ce scrutin local sous les projecteurs nationaux. Le second tour à Arcy-sur-Aube aura un goût savoureux. J'aurais pas dit ça, moi. Pour les amateurs d'histoire et de géopolitique. Les électeurs de cette petite commune de l'Aube s'apprêtent à vivre un scrutin dont l'affiche insolite interpelle, comme le constate le Figaro. C'est le Figaro qui a révélé ça. En effet, les résultats du premier tour des municipales ont placé en tête un candidat nommé Charles Hitler. Ah, avec deux T! Avec deux T! Il ressemble à quoi, monsieur Charles Hitler? J'espère qu'il n'a pas une petite moustache, là, quand même. T'imagines? La mèche, là? Oh là là. Il s'appelle Charles, par contre. Vous allez m'avoir des problèmes, par contre. Alors. Oh bah non, mais ça va. Il a une moustache. Mais il a une barbe aussi. C'est le monsieur là. Voici, mesdames et messieurs, sous applaudissements, Charles Hitler avec deux T. Ouais. En vrai, il a une bonne tête. Hein. Oh, on dirait le... On dirait le papy dans là-haut. Vous vous rappelez? Dans là-haut. Attends, c'est lui? Attends, copier. Copier, je le cache là, je le mets là. Google, attends, je vous le rajoute. C'est les mêmes? C'est les mêmes. Oh, c'est... Hein? Regardez. Un peu. Un peu. Bon, on a fait un petit pas de côté. On a fait un petit pas de côté. Je reviens à mon actu là. Donc Charles Hitler, oui. Municipal, d'accord. Qui devra affronter entre autres Antoine Renaud Zelensky. Mais qu'est-ce que c'est cette histoire? On a dit verger. Oui, le premier qui dit verger, je le banne. Cette coïncidence onomastique dont la prononciation rappelle celle du dictateur nazi et de l'actuel président ukrainien place la commune sous les projecteurs. Voilà. Malgré ses patronymes évocateurs, les enjeux de cette triangulaire restent purement locaux. Le maire sortant, Charles Hitler, de T, arrive en position de force avec sa liste « Agissons ensemble pour Arcy ». 37% des voix. Ensuite, Annie Souka, 32% des voix. Antoine Renaud Zelensky, 29% des suffrages. Loin des conflits internationaux, les débats se cristallisent sur le quotidien des Arcisiens. Monsieur Hitler, cette phrase, bordel. Monsieur Hitler axe sa campagne sur le renforcement des liens entre les habitants et leur sécurité. Tandis que monsieur Zelensky mise sur son dynamisme d'entrepreneur, mais il n'était pas comédien Zelensky, pour promouvoir un tourisme rural et authentique. Donc, M. Hitler est plutôt sur la question de sécurité. Ah, ok, d'accord. Oh là là. Et alors, attends, le Figaro a fait un papier là-dessus ? Mais c'est pas Dieu possible. Dans l'aube, Hitler et Zelensky vont s'affronter au second tour. Heureusement qu'il a doté, hein. Heureusement qu'il a doté. Charles Hitler, on a d'autres infos, maire sortant, met en avant l'expérience de son mandat passé pour... Son mandat passé ? C'est-à-dire ? Son mandat dans le passé ? Quoi ? Oui, Mathieu, je vais te le rajouter. Comment ça, son mandat passé ? Ah, dans cette ville ! Pour conquérir les Arcisiens et les Arcisiennes. Tandis qu'Antoine Renaud Zelensky, entrepreneur dynamique, mise sur sa passion. Annie Souka, quant à elle, joue les arbitres avec son appel à construire pour l'avenir. Espérons que cette confrontation se déroulera dans les meilleures conditions. Dimanche prochain, après tout, à Arcy-sur-Aube, théâtre d'une bataille napoléonienne en 1814, on n'ignore pas que les affrontements sont menés avec panache. Ils se sont fait plaisir. Oui, il veut conquérir, oui. Oui, Charles Hitler veut conquérir les Arcisiens et les Arcisiennes. Oh, oui. Bon, bah, je ne connaissais pas cette anecdote. Amis de YouTube, désolé de vous avoir infligé ça, n'hésitez pas à mettre un petit like sur cette info, ça fera plaisir. Voilà. N'hésitez pas à dire bonjour à nos amis de Twitch aussi, dans les commentaires, ça leur fait plaisir. Amis de Twitch, dites bonjour aux amis de YouTube, s'il vous plaît, ça leur fera plaisir. Merci beaucoup. Allez, on se câline, hein, tous ensemble, hey, hey. Mathieu qui nous regarde, Mathieu qui gère la chaîne YouTube, je vais te faire un shout-out pour YouTube, parce que du coup, on va mettre ça sur YouTube, c'est rigolo. Je vous enlève les... Hop, voilà. Attention les amis, cascade de professionnels, ne faites pas ça chez vous. 3, 4. Amis de YouTube, merci d'être avec nous. Vous êtes dans la matinée Étienne sur Twitch. On est tous les matins en direct pour parler d'actu. Et la communauté, le chat vient d'attirer mon attention sur les deux patronymes, les deux noms étranges de deux candidats municipaux dans une petite ville en France, une petite commune, messieurs Hitler et Zelensky. On va aller voir ça tout de suite. Voilà. Et Mathieu, il va prendre ça, il va le couper, il va le raccrocher à ce qu'on vient de faire. Bim, ça part sur YouTube. Clic, clac, Kodak. Incroyable.
Eh ouais.
Incroyable. Quel team, quel professionnalisme. Quel professionnalisme. Voilà. Et c'est grâce à vous, hein, c'est vous, je ne connaissais pas cette histoire. Merci beaucoup. Alors, on était où, nous ? Ah oui, on passe vers LR et rien à voir avec... Oh merde, je vais me faire engueuler. Alors, rien à voir avec le sujet que nous venons d'évoquer. À l'instant, là, ces noms un peu étranges. Maintenant, on va parler du RN. Voilà. Et de l'humanité qui dénonce l'hypocrisie de Bruno Retailleau, le patron de LR, vis-à-vis du RN. Alors... Moi, hier, elle m'a pas paru évidente, cette hypocrisie, parce que j'avais vu une déclaration très claire de Bruno Retailleau qui disait « Il faut faire barrage à la fois au RN et à LFI. Voilà. » Et donc, je me suis dit, bon, c'est extrêmement clair. Et puis, dans le chat, certains m'ont dit hier « Ah, mais je suis pas d'accord, Bruno Retailleau, il a dit autre chose, il n'est pas si clair que ça sur le RN. » Et je fais « Wow !» Et bah, vous aviez raison, effectivement, je t'ai trouvé les articles ce matin. Le Monde en parlait tout à l'heure, dans l'article qu'on a lu, et l'Humanité en parle également de cette ambiguïté. Voilà. C'est un article dans l'Humanité qui est page 8, Et le Monde a un peu la même analyse ce matin, on l'a vu tout à l'heure. Fusion LR-RN, l'hypocrisie de Bruno Retailleau. En appelant ses électeurs à faire barrage à LFI, le chef des Républicains les incite sans l'assumer à voter pour l'extrême droite. Est-ce que c'est vrai? Ça, on va essayer de comprendre. On savait Bruno Retailleau, bon cavalier, héritage de ses années au Puy du Fou. Oh là là là, les coquins, oh les coquins. On le découvre également adepte de la haute voltige. Le patron de LR a appelé dimanche les électeurs à un grand rassemblement de la droite pour faire gagner ses candidats au second tour des municipales contre la gauche ou contre le RN. Bon, bah c'est clair. Bon, moi je m'étais arrêté là. Hein, et à éviter la dispersion et la diversion, traçant un signe égal entre les listes de la formation de l'extrême droite et celles des partis progressistes. Enfin, pas tout à fait. Voilà. Et ça, je ne l'avais pas vu, moi. Puisque le Vendéen a également donné quelques indications pour le vote du second tour. La seule consigne que je donne, c'est aucune voix pour LFI. Ah ouais, c'est pas la même chose. La seule consigne que je donne, c'est aucune voix pour LFI. Et bien entendu, tout sauf ces candidats socialistes, écologiques, ste ou communistes, qui sont alliés avec l'extrême gauche au premier tour ou qui vont s'allier cette semaine entre les deux tours. Donc à un moment, il dit il faut faire barrage à la fois contre LFI et le RN, enfin il dit même contre la gauche et contre le RN, et puis à un autre moment, effectivement, il dit la seule consigne que je donne, c'est aucune voix pour LFI, aucune voix pour la gauche. Alors c'est là, effectivement, où disent, certains disent, bah, il y a un peu une ambiguïté, parce que dans sa deuxième prise de position, il ne parle plus du RN. C'est peut-être un oubli. Merci Papa Crux. C'est peut-être un oubli. Ajoutant aussi, les électeurs sont libres, leurs choix leur appartiennent, cela doit être respecté. En clair, l'ancien ministre de l'Intérieur préfère le RN plutôt que la gauche s'il s'agit de faire barrage à l'un ou à l'autre. C'est l'analyse en tout cas de l'Humanité. Un message clair, malgré les tentatives de l'état-major LR de faire illusion, lundi par exemple, au micro de France Info, Geoffroy Didier, qui est secrétaire général du parti LR, s'est ému. Nous ne sommes pas extrémistes, ni extrême droite, ni extrême gauche. Il a même plaidé le grand malentendu, s'indignant que le LR soit toujours accusé de faire ce qu'ils ne font jamais, à savoir s'allier avec les extrêmes. Preuve de sa bonne foi, il a promis des sanctions pour la liste LR qui fusionnerait avec des listes RN pour le second tour des élections municipales. Qu'en est-il de ceux qui, au premier tour, ont tenté un rapprochement sous les radars, comme à Bourg-en-Bresse dans l'Ain, où Benoît de Boisson d'Hiver Droite menait une liste d'union battue au premier tour par la gauche avec Reconquête, et des LR à Givors, par exemple, près de Lyon? Si le RN n'a pas présenté de liste, ses militants se retrouvent sur celle de Fabrice Riva aux côtés de personnes encartées LR. Le député européen LR Christophe Gomard a, lui, déjà assuré voter pour la liste d'Éric Ciotti, allié du RN, tandis que Jean-Marc Pujol, qui fut maire LR de Perpignan, entre 2009 et 2020, avait annoncé voter pour le frontiste Louis Alliot. Autant d'exemples qui donnent à Bruno Retailleau des airs de Tartuffe, cacher ses soutiens que je ne saurais voir. En réalité, sauf erreur de ma part, peut-être que... C'est pas terminé, hein, les listes vont être déposées ce mardi soir à 18h. Sauf erreur de ma part, je n'ai pas vu de ville où il y a eu des appels clairs à fusionner les listes entre LR et le RN. Oui ou non? Alors oui, on dit que oui, mais il y a machin qui est LR et puis il a voté pour... et puis là, il y a des militants... Alors parfois, c'est pas très clair. Ah oui, mais il y a des gars de l'extrême droite qui sont sur la liste de machin, donc voilà. Mais, on est d'accord. On n'a pas d'accord, a priori, là, sauf si une ville ou deux m'a échappé, sur les 35 000 communes que compte la France, il n'y a pas d'alliance, a priori, entre le RN et LR officiel. Voilà. Sugar me dit non, en revanche, il n'y a pas de consigne claire à ne pas voter pour un candidat RN. Je t'entends. Mais dans l'article précédent, me dit Texto, ils disent ne pas en avoir besoin. Un article qu'on a lu tout à l'heure nous disait effectivement qu'il se trouve que dans les configurations du premier tour, effectivement, LR n'a pas vraiment besoin des voix RN dans ce scrutin municipal. Juste, je souligne ça, quoi. Voilà. Pour être un peu carré sur l'info, quoi. Mais effectivement, il y a une forme d'ambiguïté dans la déclaration de M. Retailleau. Qui est peut-être, si on veut poursuivre le truc, mais là on rentre dans l'analyse, qui est peut-être un marqueur pour ce qui va suivre après les municipales, quoi. À Reims, alors, tu n'es pas le premier. L'eau me dit à Reims, il y a un truc. Quelqu'un me parlait de Reims tout à l'heure. Okay. Reims municipal. Alors, il y a Mimiche qui me dit c'est le cas à Reims, mais le candidat a été exclu du parti. On va aller voir. Alors, où est-ce que je vais trouver ça? J'ai un article de France Bleu, là. On prend le temps ici. Bah oui, Diesel, c'est ce qu'on aime faire. Hein. C'est bon, on prend le temps de vérifier les infos. Pour pas raconter n'importe quoi, on n'est pas sur X, hein, on n'est pas sur Twitter. Hein. Municipal 2026 à Reims, Arnaud Robinet, largement en tête, sera face à ORN. Et une liste d'hiver gauche au second tour, signe triangulaire. Ok. Arnaud Robinet, donc le maire sortant horizon, 43% des voix, c'est beaucoup. Devance Anne-Sophie Frigou du RN, 21%. Et Éric Quenard. Alors, elle est où l'alliance LR-RN là? On va la trouver, si y en a une. Je l'ai pas, moi, cet article. La candidate RN a confirmé avoir lancé un appel à Stéphane Lang, le leader droite, qui a accueilli 7% des voix. Il ne peut pas se maintenir, mais peut fusionner sa liste. Je vais trouver l'article, mais là, je ne l'ai pas. Ah, ici. Je l'ai. À Reims, les listes Frigou-Lang fusionnent. J'ai trouvé. C'est parti. À Reims, les listes Frigou-Lang fusionnent. Ce lundi, la candidate RN Anne-Sophie Frigou, donc c'est là, je suppose que c'est la dame qui est là, et le candidat d'hiver droite. Alors, est-ce qu'il est LR, monsieur Lang? Lang de droite. Eh ben, dis donc. Mais qui comprend plus rien. Ont annoncé la fusion de leurs deux listes afin de battre le maire sortant Arnaud Robinet. Décidément, ça parle beaucoup de Robinet sur cette chaîne. Stéphane Lang sera son numéro 2. Donc, il y a une fusion. Donc, il y a une fusion, ouais. Ok. Oh, mais c'est tout ce qu'il y a? Oh, putain, je l'analyse, quoi. Attends, fais péter la petite analyse, bordel. Vas-y, mets les cahuètes, mets l'apéro. Les mecs, ils donnent les scores du premier tour. Oh là 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 là. On reste sur notre fin. Quand même. Oh, les gars. Nous, on veut savoir, nous. Allez. Voilà, une alliance RN droite. Donc déjà, ça dit pas RN LR. Je chipote, mais j'essaie d'être rigoureux. Ah non, il est LR. À Reims, Anne-Sophie Frigou et un ancien membre de la majorité municipale, le LR Stéphane Lang, font désormais cause commune. Ok, bim, actu. Plap, 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 plap. Voilà, Anne-Sophie Frigou. Ah bah ils sont sur la photo, là, tous les deux, hein. C'est déclaré ravi que Stéphane Lang accepte la main que je lui ai tendue. Je pense qu'il se soucie de l'intérêt des Rémois, etc., etc. Ce dernier se retrouve numéro 2 de la liste. Voilà, avec le monsieur là, ici là. En tout cas, ils ont l'air contents, hein, de cette union, de cette fusion. En outre, 5 de ses colistiers rejoignent également la liste du RN. Quelqu'un me disait qu'il avait été sanctionné par LR. Je cherche l'info. Mais ce choix de rejoindre la liste RN, nouvelle illustration de la tentation d'une partie de la droite de s'allier à l'extrême droite, fait réagir. Dans un poste cinglant, Mario Rossi, qui fut notamment conseiller municipal aux côtés d'Arnaud Robinet et Stéphane Lang, écrivait dans la matinée que Stéphane Lang envisage de rejoindre une liste d'extrême droite, me laisserait pantois. Voilà, je ne vois pas de sang. Hop ! Voilà, ce revirement ne pouvait être sans conséquence. Stéphane Lang a été exclu des Républicains dans l'après-midi. Responsable de la Fédération de la Marne, Valérie Beauvais a tranché, un gaulliste ne s'associe pas avec le RN. Tout ça pour sauver un siège, c'est époustouflant. De son côté, Arnaud Robinet, donc le maire sortant, explique aborder ce second tour avec sérénité. Voilà. Ok. Donc effectivement, à Reims, vous avez un candidat LR qui a fait une union avec la candidate RN. Et il a été exclu du parti. Instant. Tchac, tchac. Je vous lis. C'était intéressant cet échange. Vous voyez, c'est ce qu'on aime faire ici. C'est-à-dire que quelqu'un nous donne une info, on dit ok, on va vérifier, on cherche. C'est voilà, mettre un peu de rigueur dans tout ça, quoi. Ok. Merci en tout cas, c'était cool. On continue? Donc l'hypocrisie LRRN, on vient d'en parler. Et maintenant, un zoom. Hein, un zoom sur certaines villes dont les résultats vont être scrutés avec beaucoup d'attention dimanche soir à 20h, notamment sur cette chaîne spéciale Second Tour des Municipales. Bien sûr, sur cette chaîne, il n'y aura pas de gaming dimanche soir. Zoom, 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 zen, bien sûr. Hein. Ça, je t'ai piqué ta blague. Cette Tsubasa vient d'écrire Zoom Zoom Zen dans le chat, mais je l'avais pré-shot. Zoom 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 Zen dans ma Benz Benz Benz. Ouais, on va se faire un petit plaisir. On va se faire un petit plaisir très rapide. Obligé. Qui veut dire? Je ne sais pas ce que ça veut dire. Je n'ai aucune idée de ce que ça veut dire. Alors, il est où mon Zoom Zoom Zen?
Et le salaire pour ce poste est compétitif? Non, mais il est en compétition avec...
J'aime les pubs, moi, je vous mets les pubs. C'est ce qu'il y a de meilleur.
Quoi?
L'électrique sous son meilleur jour.
On aime la pub ici. Va se calmer, je vous vois là. Ouais, je vous vois, vous êtes chaud comme la braise là. C'est une revue de presse sérieuse ici, hein. On est sur l'info ici, on n'est pas là pour la bagatelle. Hein. Je vous vois, je vous vois. Vous voyez, je vous vois pas? Hein? Ouais. Merci pour l'ambiance au boulot. J'espère que vous n'écoutez pas cette revue de presse avec le son si vous êtes au travail. Ah, toi aussi, t'es chaud, Sam. Oh, moi, je suis rangé des bagnoles depuis longtemps, moi. Longtemps, longtemps, longtemps. Donc, on revient à la politique. Voilà. Et on va faire des zooms. Des zooms, zooms zen maintenant sur certaines villes. Notamment, j'ai envie de faire un zoom sur Marseille. Tu nous as cassé la hype, on n'est pas là pour rigoler. On n'est pas là pour rigoler. Alors, Marseille, qu'est-ce qui se passe à Marseille? Bébé. Hein, le coup de poker de Benoît Payan. Amaël, mais moi j'attends le zizi, je suis là que pour ça. Il n'y a pas de zizi, il n'y a jamais eu de zizi. C'est de la fake news, point d'exclamation. Zizigate. Allez, c'est parti. En mettant en scène lundi matin le dépôt de ses listes pour la mairie centrale, alors qu'il avait jusqu'à 18h pour le faire, Benoît Payan a pris tout le monde de court. Benoît Payan, il avait jusqu'à aujourd'hui 18h pour déposer sa liste. Il l'a fait lundi matin pour bien dire il n'y aura pas d'alliance avec LFI. Dès dimanche soir, il avait annoncé qu'il n'y aurait pas de tripatouillage. Le maire sortant, qui cherche à se faire élire pour la première fois sur son nom, hein, a violemment fermé la porte au nez de LFI et de Sébastien Delogu, qui réclamait une fusion technique des deux listes dans le cadre d'un front antifasciste. Un rassemblement était même prévu à 18h devant la préfecture des Bouches-du-Rhône, les Insoumis appelant le peuple de Marseille à se mobiliser massivement pour créer les conditions d'un front antifasciste pour battre le RN. Comme à Toulouse, les listes conduites par le PS et les FI doivent fusionner. C'est indispensable si nous ne voulons prendre aucun risque d'une victoire du RN. Qui dit ça? C'est Hendrick Davy, qui est député marseillais de l'après, lui-même ancien purgé de LFI lors des dernières législatives. Pression sans effet sur une décision désormais prise et irrévocable. Il n'y aura pas d'accord entre la gauche non LFI et LFI à Marseille. En refusant une main tendue qui était une main qui lui avait donné des coups de poing, ce sont les mots de Benoît Payan, donc la main tendue de Logu, qui avait multiplié les attaques contre le maire sortant, eh bien Payan a pris un risque sans doute. Eh bien oui, un risque. Ah bah oui, ah bah oui. Parce que c'est une position de principe. Il avait dit, avant le premier tour, je crois, hein, qu'il n'y aurait pas d'alliance avec LFI. Donc position de principe, il dit non. Il y a pas, non. Mais, eh oui, il prend un risque. Car il est talonné par le RN, Franck Alizio, avec à peine un peu moins de 5000 voix d'écart. Mais il a aussi renvoyé la balle dans le camp des Insoumis, Et les filles, ah, jusqu'à mardi. Ah bah oui. Il remet la pression de l'autre côté. Et les filles, ah, jusqu'à mardi pour déterminer quelle sera son attitude à Marseille où sa liste est arrivée en quatrième position avec un peu moins de 12% des suffrages, loin des presque 32% obtenus dans la cité phocéenne par Mélenchon à la présidentielle. Voilà. Soit Sébastien Delogu participe à un front républicain et il retire sa liste, en appelant ou non d'ailleurs à voter pour Payan. Et ce dernier, Payan, aura de fortes chances de l'emporter face au RN. Soit Sébastien Delogu maintient sa liste et les Insoumis seront alors assurés d'avoir des conseillers municipaux d'opposition à Benoît Payan ou à Franck Alizio. Alors là, je suppose que les bagarres militantes entre les deux camps doivent faire rage. D'un côté, les militants et les filles, disant aux socialistes, notamment à Payan, vous êtes irresponsables, vous prenez le risque de faire passer le RN, et les électeurs de Payan qui vont dire aux militants LFI, c'est vous les irresponsables, il faut que vous vous retiriez, sinon vous prenez le risque de faire passer le RN à Marseille. Pour le camp Payan, voilà, LFI porterait alors la responsabilité d'avoir aidé le RN à s'emparer de la deuxième ville de France. Chacun doit prendre ses responsabilités. Ce n'est pas M. Delogu qui m'intéresse, ce sont les habitants. Et je leur dis, ce qui vous rassemble est plus fort que ce qui nous divise. Voilà. Ce qui ne veut rien dire. Hein. C'est vraiment un truc politique. Ce qui nous rassemble est plus fort que ce qui nous divise. Oui, c'est bien beau, mais c'est plus compliqué que ça quand même. Alors, la candidate de la droite et du centre, Martine Vassal, elle peut servir d'arbitre, puisqu'elle, elle peut se maintenir à 12%. Parmi ces électeurs, beaucoup d'électeurs centristes qui pourraient être sensibles au non-accord entre le printemps marseillais et les filles, donc qui pourraient peut-être parmi ces électeurs voter pour M. Payan. Un élément qui a sans doute compté dans la réflexion de Benoît Payan qui veut endosser plus que jamais son rôle de rempart contre l'extrême droite en appelant au vote utile. Je vous lis, parce que je vois que ça énerve beaucoup cette histoire. Je vous lis. Mais Payan, il n'est pas arrivé en tête du premier tour, je comprends pas, dis-moi le bide. Oui, mais sauf que le candidat RN est juste derrière, 5000 voix de différence. C'est très très chaud. À Marseille, ça va être serré. Hein. Ça ne suffit pas d'arriver en premier. Si tu arrives premier avec 20 points d'avance sur le deuxième, oui, bon, bah, c'est bien parti pour le deuxième tour, mais là, ce n'est pas du tout le cas. Ils sont quasiment ils sont dans un mouchoir de poche, quoi. Alors Vanitas estime que le RN a très peu de réserve de voix, donc vu l'écart, l'avantage est clairement donné à Payan. Mais il n'y a pas d'écart pour le coup. Il n'y a pas d'écart. Mais effectivement, on peut compter sur un report des voix à LFI. Ouais. Des électeurs à LFI, vous l'avez compris. On notera l'objectivité du Parisien qui présente LFI qui donne des coups de poing. Alors John, tu n'as pas écouté. Hein, comme souvent John, hein, John. Je t'aime bien John. Hein. C'était une citation. Il y a des guillemets. Ouais. C'est une citation de Benoît Payan. C'est pas le Parisien qui parle des coups de poing. C'est le Parisien qui cite le maire sortant. Fais un effort, bordel. John. Est-ce que c'est vrai que Samuel Etienne va faire une reprise de Tu veux mon zizi de Francky Vincent? Oui, c'est vrai. Mais je vous en parlerai plus tard. Oui, c'est vrai. Ezoltoff le rappelle, et on le rappelle pas assez. Il ne faut pas oublier que les élus locaux vont ensuite voter pour élire leurs électeurs, sont des grands électeurs. Et donc, les résultats municipaux vont faire évoluer la chambre haute du Parlement français. Tout à fait. C'est vrai. C'est marrant, il y a des sujets comme ça qui réveillent un petit peu le caractère militant de certains. Je trouve ça très bien, en fait. Moi, je trouve très bien qu'il y ait des gens qui se passionnent pour la politique, qui aient des opinions, des valeurs, qui les clament très haut. Du moment qu'il y a un minimum de respect, je vois des gens qui sont très militants dans le chat sur ce sujet, mais qui s'expriment correctement. Bon, ça ne me dérange pas du tout. Je trouve ça très, très bien, au contraire. Au moins, ça vote, ça. Hein ? Au moins, ça vote. Ouais. Ouais. Je suppose que si vous avez cet engagement aussi fort dans mon chat sur ces sujets-là, je suppose que d'ailleurs il y a du vote, quoi. Donc, écoutez, je m'en félicite. Voilà. Je vous rappelle qu'en 2027, ce serait notre paire de manches et que là, vous savez très bien pour qui il faudra voter.
Je vous ai compris.
Donc ça, c'est pour Marseille. Hop, un petit coup de projecteur pour Nice. Alors, on parle du risque que l'extrême droite arrive au pouvoir à Marseille. Alors, à Nice, c'est pas un risque. C'est quasiment... Enfin, jamais dire des choses définitives avant une élection, mais c'est quasiment sûr que Ciotti, président du parti UDR, parti d'extrême droite, allié du RN, va devenir le maire de Nice. Il n'y a quasiment pas de suspense. Hein. Nice, la gauche, barre la route d'Estrosi, Ciotti sur orbite. Le décorum de la permanence de Juliette Chesnel-Roux ce lundi après-midi laissait peu de place au doute quant à ce qu'elle annoncerait devant la presse. Il est 16h30 et la candidate d'Union de la gauche Aurélie Fille au municipal à Nice s'apprête à prendre la parole pour faire part de cette décision de se maintenir ou non au second tour des élections municipales. En même temps, certains, et notamment Estrosi, appelaient la candidate de la gauche à appeler ses électeurs à voter pour Estrosi. C'est un peu compliqué. Le nombre inédit de journalistes dans son local de campagne illustrait à lui seul l'importance du moment. Seul un retrait pouvait éventuellement permettre à Estrosi d'y croire face à Éric Ciotti. Hein, un espoir rapidement douché devant des affiches Basta Ciotti, Basta Estrosi, pardon, ou encore ni l'un ni l'autre. Juliette Chesnel-Leroux ne mâche pas ses mots et annonce le maintien de sa candidature. Donc non seulement elle ne se retire pas au bénéfice de Estrosi, non seulement elle n'appelle pas ses électeurs à voter pour lui, mais au contraire elle se maintient. Au micro, Juliette Chesnel-Leroux dénonce une campagne indigne, puis acte de la chute du système Estrosi. Elle accuse le maire sortant d'avoir tracé en fait le sillon de l'extrême droite. Au moment où le danger devient réel, Estrosi vous laisse présenter comme le rempart contre l'extrême droite. Cette posture n'est pas crédible, dit-elle. Avant d'achever, nous lui demandons solennellement de se retirer immédiatement de la vie politique. Cette journée marque un tournant dans la vie politique niçoise. Après l'annonce des résultats dimanche soir et la large avance de 13 points d'Éric Ciotti, Estrosi avait tout misé sur une stratégie de front républicain. Ouais, mais bon. Appelant la gauche à la responsabilité face à l'extrême droite. La situation de Nice a été scrutée jusqu'au plus haut sommet de l'État. Selon nos infos, dit le Parisien, Sébastien Lecornu a appelé Marine Tondelier ce lundi matin pour évoquer les fronts républicains et tout particulièrement celui de Nice. Ah, grosse pression de toute la Macronie depuis hier soir, nous indiquait-on. Ah, pourquoi la candidate de gauche se retire ? Le Premier ministre a également envoyé un SMS à Olivier Faure pour évoquer la situation à Nice et tenter de sauver le soldat Estrosi. Réponse d'Olivier Faure, la tête de liste, donc... Au niveau local, ce sera elle qui aura le dernier mot. L'avenir de Christian Estrosi à la tête de la 5e ville de France s'inscrit plus que jamais en pointillé. Au sein de son entourage, l'amertume semble avoir déjà pris le pas et les regrets sont immenses. Il était écrit que Nice servirait de laboratoire pour tester la résistance du Front républicain. Il vient d'exploser en vol, écrit le Parisien, et Ciotti voit l'horizon de se dégager pour la conquête de la mairie. Le même proche d'Estrosi résume, les gens adhèrent à l'extrême droite parce qu'ils apparaissent comme une alternative anti-système, avec une proximité qu'on n'arrive plus à transmettre. Mais le Front républicain ne pouvait pas marcher à Nice parce que personne n'accole sur Éric Ciotti l'étiquette d'extrême droite. Ben, personne à Nice peut-être, mais d'après le Conseil d'État et le ministère de l'Intérieur, l'UDR présidé par Éric Ciotti, c'est un parti d'extrême droite. Parti allié du RN, par ailleurs. Une phrase un peu étrange. Charles-Henri, je vous salue. Hein. On en parle quand vous voulez. Je vous lis sur Nice. Il y a des Niçois ici ? Nope. Je vous lis. Lisbeth dit, personne n'accorde vraiment à Estrosi le statut de républicain, trop de magouilles locales. Comme elle est fille, c'est d'extrême gauche, mais ça te fait mal à la gorge de le dire. Balance mon KV, NSRS 247, qu'est-ce qui se passe ? Non, le Conseil d'État et le ministère de l'Intérieur viennent de classer LFI à l'extrême gauche. Tout à fait. Tout va bien ? Tu veux une petite pastille ? Tu veux une petite, petite Valda ? Un petit tic-tac ? C'est une sacrée salade, cette campagne niçoise. Stéphane, je ne l'aurais pas tenté celle-là, mais je la valide. On en parle du pambagna. Qu'est-ce qu'il y a de meilleur qu'un pambagna bien frais avec une vraie huile d'olive ? Étant niçois, j'ai l'impression de devoir choisir entre la peste et le choléra, me dit The French Dolmen. Baptica, je suis niçois et sacrément deg. Bon, au moins tu vis dans une belle ville, c'est sympa Nice, non? C'est une belle ville, non? Ok, zoom, zen à Paris. Et là, j'ai besoin de vous. Je ne comprends rien. Enfin, je comprends rien. Il y a des trucs qui sont pas très clairs. Il y a des trucs qui sont pas très clairs à Paris. Alors, il y a une union des listes Dati Bournazel. Dati qui était largement dévancé par Emmanuel Grégoire, donc le candidat de la majorité sortante. Et franchement, sans cette alliance avec Bournazel, Dati n'avait aucune chance. Voilà. Ça n'est pas joué. D'autant qu'il reste l'inconnu Knafo et Chikirou, hein, RN et LFI, mais c'est quand même un point pour le camp Dati. Désolé de reposter, mais selon le cadre enchaîné, Sarah Knafo se retire au profit de Rachida Dati, me dit King Julian. Ne sois pas désolé, c'est hyper important. Sarah Knafo se retire au profit de Rachida Dati ? Alors là, c'est un petit game changer. Ça n'a pas de sens. Oh si, Sugar, ça a du sens. Et d'ailleurs, je crois que c'est évoqué par un article, ça. Alors, effectivement, pour l'instant, le seul média qui me semble donner l'info, c'est le Canard Enchaîné. On prend cette info avec prudence, avec des pincettes, puisque c'est bien que l'information... Une information pour être sûr de sa véracité, il faut qu'elle soit confirmée par exemple par les intéressés. Si on avait un poste de Madame Dati ou de Madame Knafo, ça permettrait de confirmer cette info. Si d'autres médias confirmaient cette info, ça pourrait être intéressant aussi. Pour l'instant, on va prendre cette info avec prudence. Mais bon, le Canard Enchaîné a des sources en général de qualité sur la vie politique de notre pays. Sarah Knafo se retire au profit de Rachida Dati. Après avoir réalisé 10,4% au premier tour du scrutin, Sarah Knafo a failli ne pas être qualifiée pour le deuxième tour. Hein. La candidate d'extrême droite, Reconquête, même si le parti n'apparaît jamais sur ses tracts de campagne, c'est vous qui me l'avez appris hier, je ne voulais pas vous croire. On est allé voir le site de Madame Knafo pour les municipales. Son parti n'apparaît jamais. Le mot Reconquête, le logo du parti Reconquête n'apparaît jamais. C'est quoi le slogan déjà ? C'est Paris est une fête, ou je sais plus, un truc comme ça. Paris, la vie est belle, ou ouais, c'est très intéressant. Et donc, bref, je ferme la parenthèse. La candidate d'extrême droite Reconquête, ville heureuse. Ah oui, une ville heureuse. C'est ça. A décidé de retirer sa liste pour le second tour et de laisser le champ libre à l'ancienne ministre de la Culture. Information confirmée au Canard Enchaîné. Voilà. Par plusieurs de ses colistiers. L'information serait confirmée. Ah oui, ville joyeuse, c'est ça. Avec 10,4% réalisé au premier tour, la candidate d'extrême droite rêvait de fusionner sa liste avec celle de Dati, mais cette dernière lui a opposé une fin de non-recevoir. Knafo a d'abord appelé... Ah, c'est heureuse, c'est ville heureuse. Dati à la fusion des listes, et Dati a dit non, moi je ne m'associe pas avec la liste de Madame Knafo. Voilà. Dans ces conditions, Sarah Knafo aurait, conditionnel, pu maintenir sa liste, comme l'a fait Sophia Chikirou, pardon, pour LFI, mais manifestement elle se retire. Il y a quelqu'un qui dit Noromano Cry, j'espère que tu vas bien. Bon, bah, si Chikirou se retire pas, Dati est officiellement la nouvelle maire de Paris. Sur le papier, ça va être compliqué pour Emmanuel Grégoire. Ça va être serré, ça va être serré. Maintenir sa présence au second tour aurait permis à la compagne d'Éric Zemmour de pouvoir siéger au Conseil de Paris, de bénéficier d'une belle tribune politique, reste à savoir ce que l'ex-ministre de la culture. Ouh, le canard enchaîné, les coquins. Reste à savoir ce que l'ancienne ministre de la Culture a pu lui offrir en retour de ce renoncement inespéré. Alors, c'est peut-être plus compliqué que ça. J'explique. Le canard enchaîné pose une bonne question. Le canard enchaîné pose une bonne question. Qu'est-ce que Sarah Knafo a obtenu de Dati pour retirer sa candidature ? Avec l'espoir que beaucoup d'électeurs de Sarah Knafo votent pour Madame Dati plutôt que de M. Grégoire ou de s'abstenir. Donc le canard enchaîné pose cette question. Reste à savoir ce que l'ancienne ministre de la Culture a pu offrir à Madame Knafo en retour de ce renoncement inespéré. Ce matin, dans un article que j'ai lu, peut-être qu'on va le retrouver dans un instant, il y a une autre analyse. Ce qui pouvait éventuellement tenter Sarah Knafo de se retirer sans condition, sans obtenir des avantages politiques, par exemple, la présence de certains de ses colistiers sur la liste de Madame Dati, eh bien, c'est que ça permet à Sarah Knafo et à une partie de l'extrême droite, le parti Reconquête, de montrer que l'union de la droite, quelque part, eux, ils la font. Ils savent se retirer quand il le faut pour faire barrage à la gauche. Voilà. Et donc, ils vont apparaître auprès d'une partie des électeurs. Vous allez voir, c'est ce qui va se passer dans les prochaines heures et les prochains jours. Ça va permettre à Sarah Knafo de dire, bah, vous voyez, nous, on sait prendre nos responsabilités, on sait faire barrage à la gauche. Alors, pas à LFI, parce qu'il n'y a pas LFI dans le camp Grégoire, puisque lui a refusé l'union avec LFI, mais de se mettre en avant comme ceux qui travaillent et œuvrent pour la réunion de droite et d'extrême droite. Voilà. Donc il y a peut-être cette arrière-pensée politique. Peut-être, hein, c'est une petite hypothèse. Voilà. On continue. En tout cas, merci à la personne qui m'a dit que le canard enchaîné sortait cette info. On prend cette info avec beaucoup de prudence, bien sûr, on attend qu'elle soit confirmée officiellement. Est-ce qu'on peut aller voir d'ailleurs, peut-être que ce que dit. Est-ce que quelqu'un me disait que Madame Knafo avait tweeté Knafo. Est-ce qu'elle a tweeté. Il n'y a toujours pas le. Il n'y a toujours pas le logo de Reconquête. Hein. Mais. C'est dommage, pas bon. En fait, je me trompe, hein, elle n'est pas Reconquête, elle doit être sans étiquette. Donc, invitée ce soir de sur une chaîne d'info. Laquelle ? Ah, CNews. De qui ? Pascal Praud. 20h30. Voilà. Ah, donc, elle confirme pas. Elle confirme pas l'info pour l'instant. Voilà. Ok, d'accord. Donc revenons maintenant à ce papier donc, du Parisien, et qu'on va pouvoir compléter par cette information qu'on va prendre quand même avec prudence. Notamment sur l'alliance Dati-Bournazel. Donc ça voudrait dire que Bournazel, le candidat Horizon, qui avait eu plus de 10% des voix, 11% des brouettes, fusionne sa liste. Lui, il n'y va pas, c'est ça qui est un peu bizarre. Mais bon, bref, il y a une union, et donc on peut supposer qu'une partie, pas toute, quand il y a une union comme ça, tous les électeurs de Bournazel ne vont pas voter pour Dati. Hein, c'est pas 100% de... on joue, on gagne. Quoi. Donc il y a une partie des électeurs de Bournazel qui vont sans doute suivre cette consigne de vote et qui vont voter pour Dati. Maintenant que Sarah Knafo de Reconquête vient de se retirer au bénéfice de Madame Dati, c'est pareil, il y a une partie des électeurs de Sarah Knafo qui vont voter pour Dati, mais pas forcément tous. Mais bon, ça fait quand même des électeurs qui viennent s'ajouter aux voix qui se sont portées sur Madame Dati dès le premier tour. Donc là, ça devient un peu plus compliqué pour le candidat de gauche. Lisons. Ça se trouve, elle va annoncer sur CNews. Bon, c'est quasiment sûr, Luna. Luna, c'est quasiment sûr. La nuit de dimanche à lundi fut longue, ou plutôt très courte pour les états-majors des listes de Rachida Dati, Pierre-Yves Bournazel, Horizon Renaissance. Dès la fin de sa déclaration à la presse, où elle tendait la main une première fois au candidat de centre-droit, à un proche de la chef de file de la droite, au municipal prévenait « on ne va pas dormir, comprendre, il y a du boulot pour aboutir à une fusion ». Un accord qui aura finalement été scellé hier après-midi, lundi, selon nos infos, à l'issue d'âpres négociations, lundi soir sur France 2, Bournazel annonçait qu'il ne sera pas sur sa liste. Alors ça, c'est incroyable. Moi, c'est un truc, je voudrais qu'on m'éclaire là-dessus, vous êtes un peu plus de 4000, est-ce que quelqu'un a la réponse ? Monsieur Bournazel, Horizon Renaissance, la liste là, finalement il se retire alors qu'il aurait pu se maintenir et qu'il ne peut pas blairer Dati au profit de Dati, mais lui il ne va pas sur la liste. Alors que ses colistiers, eux ils y vont, pour partie. Il veut rester maire d'arrondissement tranquille, il s'en fout de Paris, il voulait être juste maire. Il ne sera pas sur la liste justement à cause de CNAFO. Bournazel déteste Dati, il a juste une pression de Philippe et Macron. Moi je pense que c'est plutôt ça, ouais. Je pense que c'est un bon coup de pression effectivement, ouais. Venant d'en haut. Ouais. Ah, j'aime l'analyse de Clément Coquine. Bournazel n'aime pas Dati, ils peuvent pas se blairer les deux, hein. Ils se détestent, ils se haïssent. Donc il lui fait un baiser mortel, je fusionne, parce que on dit qu'Edouard Philippe, voire Emmanuel Macron, ont fait pression sur Bournazel pour qu'il se retire au bénéfice de Dati. Je fusionne, mais je ne t'apporte pas mon soutien. Ok, d'accord. Parce qu'il respecte ses convictions et a dû obéir à Philippe. Je crois que vous avez raison, c'est ça. Ok. Ok, bon, je crois qu'on a l'explication. Mais vous êtes très forts. Ils sont très forts. Après la perche lancée en début de soirée dimanche, Dati a continué à appeler une alliance par le biais d'un message sur les réseaux sociaux au milieu de la nuit. Donc, elle a fait pression sur ça. J'ai parlé ce soir à Pierre-Yves Bournazel pour lui proposer une liste d'union, l'emporter ensemble au second tour. Le temps est compté. Manière aussi de maintenir son rival et désormais allié sous pression, car à ce moment, la candidate ne sait pas si son concurrent ira jusqu'au bout ou finira par se désister. Voilà. Chez Bournazel, pourtant, certains ne semblaient pas du tout pressé pour l'union. Il prendra sa décision en conscience, il est très serein, sans pression, blablabla, disait donc son entourage. De quoi agacer à droite. Bon bref, ça a été compliqué l'union. Hein. Dans la matinée, Bournazel ouvre publiquement la porte à une union, donc hier matin, en posant des conditions qu'il sait largement acceptables. Je suis un homme de dialogue, je souhaite l'alternance à Paris, comme une majorité de Parisiens. Dès hier soir, j'ai donc échangé avec Madame Dati. Je suis aussi un homme de valeur, je pose trois préalables à toute discussion. 1. Respecter son projet pour lequel près de 100 000 Parisiens ont voté. 100 000, c'est tout ? Faut aller voter, les gens. 2. Hein. Changer le ton de cette campagne. Et 3. Surtout, rejeter toute alliance ou toute porosité avec l'extrême droite. Malgré une réponse de l'intéressé semblant valider le tout, la situation stagne. Donc, réponse de Dati, bon, ça a un peu traîné, quoi. Ça a un peu traîné, mais on sait déjà, on connaît la fin de l'histoire. Ça, c'est fait. Donc, je vais à la fin, parce qu'on connaît la fin de l'histoire. Hein. Oui, c'est Zik, on sait pour ça, CNAFO, ouais. Merci beaucoup, merci pour l'info. Ok. Malgré les mots virulents, parce que les deux se sont beaucoup accrochés, hein, Dati et Bournazel, les critiques d'avant premier tour et le refus de travailler ensemble, Bournazel et Dati reviennent donc sur la promesse de la candidate LR de ne pas modifier sa liste d'entre deux tours. Tiens, j'avais pas vu, mais Madame Dati, elle avait promis de ne pas changer sa liste entre les deux tours. Et cette dernière s'allie avec celui qui, selon elle, incarnait pourtant la droite la plus bête du monde. Voilà. Mais leur volonté d'alternance à Paris vaut bien cela. Ok. Donc, maintenant c'est extrêmement clair. À Paris, nous avons un deuxième tour dimanche qui va opposer Madame Dati, qui avait un score qu'elle avait jugé décevant au premier tour, pour une victoire de la droite à Paris, le retour de la droite à Paris après des années de municipalité à gauche. Dati face à Emmanuel Grégoire. Emmanuel Grégoire qui a refusé de fusionner ses listes avec LFI. Voilà. Sophia Chikirou, du coup, a dit, bon, dans ce cas-là, je me maintiens. Donc dilemme pour les électeurs de LFI. Là. Et de l'autre côté, vous avez donc Dati, qui a fait un accord avec Bournazel, voilà, et qui va pouvoir bénéficier d'une partie des voix de Sarah Ctafo, puisque celle-ci se retire au profit de Dati. Voilà. Ceux qui disent l'aim, je vous vois. Non, c'est fini, Vraël. C'est fini. Non, mais... Enfin, attendez. Non, c'est fini. Non. Pour le retrait de Ctafo, on n'est pas sûr. Hein. C'est une info du Canard Enchaîné. On va être prudent. Attendons les déclarations de Madame Ctafo, peut-être ce soir, sur la chaîne d'infos que nous évoquions tout à l'heure. Donc, voilà. Voilà, à peu près. Ça va être, sans doute, si ça reste dans, comme on vient de le dire, ça va être très serré dimanche. Dati, Bournazel, Dati. Voilà. Oui, chaîne d'opinion, oui. Au pluriel, ah non, au singulier. Pardon. C'est vrai. Après, comme je ne la regarde pas... J'ai... Ah, c'est pas mal le sondage que propose Régis. Avez-vous déjà suivi les conseils de vote d'un de vos élus? Uniquement les votes que vous n'auriez pas fait de vous-même s'il n'y a pas une consigne particulière. Régis, je vais pas le faire sondage parce qu'il est un peu pointu, j'ai la flemme, mais c'est une très bonne question. Est-ce qu'on suit les conseils de vote des élus et tu dis uniquement les votes que vous n'auriez pas fait de vous-même? C'est-à-dire, est-ce qu'on suit aveuglément les consignes de vote au nom, par exemple, d'un barrage? Certains vont nous répondre oui, certains non. Merci de Neufutix, mais c'est une très bonne question. En fait, on connaît déjà la réponse. On sait déjà, on connaît. Parce que ce genre de situation où à un moment un mec se retire d'une élection et appelle à voter pour un autre, ben on sait mathématiquement, arithmétiquement que les reports de voix, ce qu'on appelle les reports de voix, ne sont pas systématiques. Hein. Et selon les élections, ben, c'est une partie des votes qui vont aller sur le candidat désigné, mais une partie seulement. On sait déjà, on connaît déjà la réponse. Après, ça varie selon chaque situation, bien sûr. Voilà. Très intéressant. Bon. Alors, du coup, merci Régis, ouais, t'étais super. Mais du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dimanche soir à 20h ici, ça va être très intéressant de suivre ce qui va se passer pour Marseille, pour Paris, mais pour toutes les villes où il y a des deuxièmes tours, bien sûr. Voilà. Voici pour cette grosse page municipale. Ici, on aime les grosses pages, on aime les gros sommaires aussi. Je fais attention parce que j'ai un Teams à 12h30 et puis oui, j'ai un peu traîné ce matin parce qu'on a passé quand même plus de 2 heures. Waouh, uniquement sur les municipales. Nous avons passé plus de 2 heures uniquement sur les municipales. Hein, la passion qui s'empare de nos petits corps de citoyens là. Salut Nero, merci beaucoup. Incroyable. Des bisous pareil. Et bien du coup, on va aller au Moyen-Orient maintenant. Oula. Désolé pour le caractère basique de la question, mais est-ce qu'il serait possible de résumer en quelques mots ce qu'impliquent les résultats des municipales en France? Et en Suisse, tout ça n'est pas si clair. Tu me demandes de résumer 2 heures de live, 2h15 de live, plus la soirée spéciale de dimanche soir, plus la matinale d'hier? Oh la vache. Ouais, je te le fais, très vite. Prêt? 3, 4, top. Élection municipale, premier tour dimanche dernier, deuxième tour dimanche prochain. Une élection municipale, donc locale, mais aux conséquences parfois nationales, aux enseignements nationaux. Rappelons qu'en 2027, présidentielle. Que peut-on analyser de ce premier tour? Progression du RN. Voilà. Alors, le RN part de très très loin, puisque c'est un parti qui a une implantation locale faible. Mais progression du RN au niveau local. LFI, pareil. Progression du vote LFI aux élections municipales. Mais pareil, LFI est un parti qui part de loin, parce que faible implantation locale. Les socialistes et LR, des partis qui sont affaiblis par rapport à ce qu'ils ont été dans leur grande époque, sont des partis très implantés au niveau local, et le recul de ces partis n'est pas significatif. Donc LR et les socialistes peuvent dire qu'ils tirent à peu près leur épingle du jeu. Ils auraient pu reculer beaucoup plus. Les écologistes, grands gagnants du scrutin de 2020, avec plusieurs grosses villes gagnées par les Verts, avaient très peur d'une énorme reculade. Il y a un recul des écologistes à l'occasion de ces municipales, mais moins fort qu'ils ne craignaient. Voilà, ça je résume à l'extrême. Et après, ce qui est très important aussi de comprendre, c'est que ce qui se passe autour de ces municipales, ces accords d'alliance ou ces non-accords, participent de la redéfinition du paysage politique français à l'œuvre depuis quelques années, avec un éclatement entre plein de pôles, une polarisation des électeurs français aussi, au détriment de l'alternance gauche-droite classique qu'on a connue avant. Et tout ça va nous emmener vers la présidentielle 2027. Top chrono.
Voilà.
On ne peut pas faire plus court. Hein. Plus court, après, ça débaptise. Ah, ça va crever. Hein. Allez, est-ce que je me lance un café? Non, ça va. J'ai pas compris, c'était trop rapide. Bah, tu regardes le replay et puis tu mets en vitesse 0,75. Merci, Desen. Bon, on part sur. Je vous emmène dans le détroit d'Ormuz. Allez, c'est gratuit. Bim. Alors, lui, il est gonflé. Bah, là, je peux te le résumer, tu vois. Trump. Moi, je peux te résumer l'actu, là. Il est gonflé. Trump. Somme l'OTAN de sécuriser le détroit d'Ormuz. C'est pas la guerre de l'OTAN, c'est la guerre de Trump et Netanyahou. Voilà. Il a voulu taper l'Iran. Voilà. Il y a le feu à la région, le détroit d'Ormuz est bloqué, un cinquième du pétrole mondial qui passe par là, la crise qui menace, la crise économique. Et là, Trump, il dit, dis donc les gars de l'OTAN. Hein, quoi? Non, parce que nous, on n'est pas du tout dans le... Ouais, maintenant, il va falloir m'ouvrir le détroit d'Ormuz.
Parce que, mais oui, bien sûr, votre parti.
Mais qui elle est, celle-là? Qu'est-ce que j'ai fait, moi?
Mais l'OTAN, moi? Mais j'ai rien à faire dans le... Trump. Le président américain exige de ses alliés qu'ils escortent les pétroliers et les menace de représailles en cas de refus. Un coup de semonce qui suscite scepticisme et malaise en Europe. Certains me disent que Delogu à Marseille est en train d'annoncer son retrait. C'est très important, mais désolé, je suis parti sur le Moyen-Orient. On y reviendra à la fin de cette revue de presse. C'est incroyable. Il menace ses alliés de débloquer le détroit d'Ormuz, bloqué par les frappes, les conséquences des frappes qu'il a décidées sur l'Iran. Une telle mission impliquerait d'escorter des pétroliers, des cargos dans des eaux dangereuses, tout en surveillant et neutralisant mines, drones et vedettes ennemies. Dans un entretien accordé dimanche au FT, au Financial Times, Donald Trump somme les alliés de l'Alliance Atlantique de contribuer à rouvrir le détroit d'Ormuz. À défaut, cela aura des conséquences très mauvaises sur l'avenir de l'OTAN, avertit le président américain. Donc non seulement le gars, il dit, faut, les gars, ouais, je sais, vous êtes au courant de rien, je vous ai pas dit pour le truc, mais il faut le faire, et en plus, si vous le faites pas, représailles. La séquence est un air de déjà-vu. Encore une fois, le président républicain tente d'imposer un bras de fer diplomatique avec le reste du monde. Sécuriser le détroit d'Ormuz relèverait d'une opération périlleuse. Près de 20% du pétrole mondial transite par cette artère maritime parasitée ces jours-ci par l'Iran. Il est très difficile d'imaginer qu'un État accepte, même parmi les alliés les plus atlantistes, explique un chercheur qui s'appelle Thierry Tardy. Le risque d'embrasement est réel. Militairement, c'est chaud. Hein. Imaginez que la France décide d'obéir aveuglément à Trump et envoie ses bâtiments, ses navires dans le détroit d'Ormuz, voilà, et puis ça, les bâtiments français, imaginez un bâtiment français tapé par un missile ou un drone iranien, ou qui tape contre une mine iranienne, quid de la suite? Quid de la suite? Voilà. Donc le chercheur dit, c'est impossible à imaginer, quoi. Personne ne veut faire la guerre à l'Iran, ce n'est pas la guerre des Européens, dit M. Thierry Tardy. Pour l'heure, la prudence domine. À ce stade, il n'est pas question d'envoyer des navires dans l'étroit d'Ormuz, a temporisé la ministre des Armées, Catherine Vautrin, sur France 24. Ce lundi, Trump a annoncé s'être entretenu avec Emmanuel Macron sur une échelle de 0 à 10. Il est à 8, pas parfait, mais c'est la France, a déclaré Trump. C'est du Trump tout craché. Donc Trump à propos de Macron après son coup de fil. Sur une échelle de 0 à 10, Macron est à 8, pas parfait, mais c'est la France. Tu sais ce qu'elle dit la France, Trump ? On ne s'attend pas à la perfection, a-t-il lancé sans préciser la teneur de cet échange. Le Premier ministre britannique, Keir Starmer, a lui aussi échangé avec Trump dimanche sans s'engager davantage. S'il affirme travailler avec d'autres pour élaborer un plan crédible, il se rappelle aussitôt que cela n'a jamais été envisagé comme une mission de l'OTAN. Trump en appelle aussi au Japon, à l'Australie et même à la Chine, malgré la rivalité persistante entre Washington et Pékin. Tu sens que ça commence à le stresser un petit peu le pétrole, Trump, quand même. Les autorités chinoises se contentent de réitérer le rappel à cesser immédiatement les opérations militaires à Tokyo, au Japon, fin de non-recevoir immédiate. Le malaise tient d'abord à la méthode. La Maison-Blanche a frappé en Iran sans prévenir ses alliés. Non, peu importe. Je vois des mots sur Macron dans le chat alors que les mots sur Macron dans le chat sont provoqués par ce que Trump dit de la discussion qu'il a eue avec Macron. C'est-à-dire qu'en fait, vous tenez pour crédibles les propos de Trump. Sur quoi que ce soit, les propos de cet homme ne sont pas crédibles. Jamais. Vérifiez vos sources, les gars, quand même. Vérifiez vos sources. Putain. Le malaise tient donc d'abord de la méthode. La Maison-Blanche a frappé en Iran sans prévenir ses alliés. Si vous vouliez notre présence à l'atterrissage, il fallait nous avoir au décollage. Cingle sur X, l'ancien ambassadeur de France aux États-Unis, Gérard Haro, rappelons une expression américaine. Washington est historiquement la colonne vertébrale de l'OTAN, mais ces derniers mois, Trump a lui-même bousculé l'alliance sur le Groenland d'abord, territoire danois, qu'il a menacé de s'approprier. Soit avec la manière douce, soit avec la manière forte, donc menaçant directement un pays alliés dans l'OTAN. Puis sur le Canada, sommet de devenir le 51e État américain. Pour la première fois, un État membre s'en prend explicitement la souveraineté d'un autre, constate une chercheuse qui s'appelle Amélie Zima à l'IFRI. C'est totalement inédit. Cette marche forcée provoque des situations presque surréalistes. Donc là, ça parle du Groenland, etc. On va pas revenir sur le Groenland. Hein. Donald Trump n'aime pas le multilatéralisme. Or, l'OTAN, ce sont 32 États autour d'une table qui doivent parvenir à un consensus, rappelle la chercheuse. Le businessman préfère les rapports de force bilatéraux où la puissance américaine pèse davantage. Alors, qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce que l'OTAN va céder à la pression de Trump ? Bon, attendez, il y a plein de gens qui sont en mode breaking news et qui pensent nous informer sur Delogu qui se retire à Marseille. On va l'épingler parce que ça va vous faire économiser du clavier. Il y en a qui sont en mode chaîne info là. Voilà. Comme ça, ça va faciliter le travail des modos. Voilà. Voilà, les breakers de news, là. Donc, qu'est-ce que va faire l'OTAN ? Techniquement, l'Alliance pourrait plier aux injonctions de Washington. L'OTAN s'est sécurisé des zones maritimes, concède la chercheuse. Elle a déjà fait, par exemple, contre la piraterie en Méditerranée. L'affaire se complique sur le plan juridique. Créée en 1949, l'OTAN doit obtenir l'aval du Conseil de sécurité des Nations Unies pour intervenir hors de sa zone. Et cet aval de l'ONU ne viendra pas. La Russie y dispose d'un droit de veto. Au téléphone, l'eurodéputé Bernard Guetta vitupère, une telle opération suppose des réunions entre états-majors. Pourquoi faire, dans quelles conditions, avec quelle répartition des rôles, dire venez parce que je siffle. Non, ce n'est pas possible, explique le géopolitologue. Hein. Reste la menace d'un retrait américain de l'OTAN, bien sûr. Hein. C'est marrant parce que l'OTAN Trump n'a cessé de dire que l'OTAN était ni fait ni à faire et que les États-Unis avaient marre de soutenir l'OTAN et là aujourd'hui il fait appel à l'OTAN. En cas de retrait, l'Alliance pourrait survivre à un départ américain au prix d'immenses fragilités. Même en agrégeant les armées européennes, certaines capacités manqueraient, notamment dans le renseignement, explique Amélie Zima. Poutine pourrait... Imaginons que Trump se fâche et qu'effectivement, il décide, après tout, pourquoi pas, que les États-Unis se retirent de l'OTAN. Voilà. Thierry de Tardy, le chercheur qu'on a cité tout à l'heure, dit « Vladimir Poutine pourrait y voir la fin de l'OTAN et être tenté d'en tester la solidité. Des soldats russes pourraient alors se masser aux portes de la Pologne ou des pays baltes. La pression sur Moscou, sur l'est de l'Europe, deviendrait insupportable. » Merci Donald. Voilà. Donc je voulais vous mettre cet article en avant parce que je le trouve assez fou. On va revenir tout à l'heure, dans 10 minutes, sur effectivement le retrait de Delogu à Marseille, au profit du maire sortant Benoît Payan, parce que pour le coup, ça redistribue un petit peu les cartes à Marseille. Voilà. Enil, regarde, c'est épinglé là-haut. C'est marrant, il y a la moitié du chat qui est en mode breaking news. C'est une info importante, merci. Hein, mais pour le coup, on l'a eu déjà une petite trentaine de fois dans le chat. Voilà. On aurait fait un classement, tu sais. Alors, le premier à nous l'avoir dit, c'est machin. Le deuxième, à égalité avec machin, c'est voilà, le quatrième. Alors là, tu es 72e, mais merci beaucoup. Et une dernière info, voilà, sur les Iraniens. Alors, lesquels ? Impossible à dire. En tout cas, les Iraniens qui avaient espéré un changement de régime, eh bien, qui se sentent trahis. Trahis par qui ? Par Trump. Voilà. Alors, je trouve que le titre du Wall Street Journal, parce que dans l'opinion, tous les jours, vous avez des articles du Wall Street Journal qui sont traduits, et je trouve que ce titre est très intéressant parce que le Wall Street Journal ne titre pas « Les Iraniens se sentent trahis ». Parce qu'on sait qu'il y a une partie impossible à mesurer des Iraniens qui, notamment ceux qui ont intérêt au maintien du régime pour des raisons X ou Y, il y a une partie des Iraniens, dans quelle proportion ? C'est impossible à mesurer puisque ce pays n'est pas une démocratie, ce pays n'a pas d'opposition. Libre, il n'y a pas de sondage, pour mesurer l'état de l'opinion, c'est impossible. Donc le Wall Street Journal écrit, ce qui est sûr en revanche, c'est que les Iraniens qui avaient espéré un changement de régime se sentent, eux, trahis par Trump et Eli Kochol, merci beaucoup. Merci à toi. Au début de la guerre contre l'Iran, c'est même, quelqu'un me dit, oui, Trump a lâché les Iraniens, double lâchage. Au début de la guerre contre l'Iran, Israël et les États-Unis affirmaient qu'ils ouvraient la voie à un soulèvement du peuple iranien pour renverser son gouvernement. De nombreux Iraniens, merci Mitsugi, merci pour le raid, vous étiez sur quoi ? De nombreux Iraniens ont salué cette offensive comme leur dernière chance d'évincer les dirigeants qui avaient tué des milliers de manifestants, notamment en janvier. À présent, on est en train de lire un papier sur le lâchage des Iraniens par Trump. On a fait une grosse page municipale. Merci à Mitsugi. À présent, les Iraniens sont conscients que la fin de la guerre n'implique peut-être pas la chute du régime autoritaire, ni la levée des sanctions internationales écrasantes et craignent de voir vivre désormais, non seulement dans un pays où le régime n'a pas changé, mais dans un pays où les villes sont dévastées, avec un gouvernement en colère qui a promis de sévir encore plus durement contre les dissidents. Est-ce que l'avenir demain des Iraniens et des Iraniennes, non seulement ça n'est pas un pays débarrassé du régime islamique des Mollahs, mais un pays où le régime est encore plus dur. Et en plus, un pays dévasté par les frappes américaines et israéliennes. Est-ce que c'est ça, l'avenir des Iraniens et des Iraniennes ? C'est la question que pose le Wall Street Journal. Un défenseur des droits des citoyens et ancien prisonnier politique vivant à Téhéran raconte que les Iraniens étaient vraiment pleins d'espoir au début de la guerre, il y a 2 semaines. Aujourd'hui, dit-il, ils se sentent trahis. Un professeur d'anglais de Téhéran, opposé au gouvernement mais aussi à la guerre, se montre plus incisif. « On s'est fait avoir », déplore-t-il, estimant que « ils ont, les Iraniens, servi de prétexte pour lancer une guerre dévastatrice. C'est comme si nous avions fait un bond de 100 ans en arrière. » Cette déception, elle fait suite au revirement de position des responsables israéliens et américains qui, dans un premier temps, ont dit clairement qu'il y a des déclarations de Trump en ce sens qu'il fallait que les Iraniens descendent dans la rue pour faire tomber le régime. Et aujourd'hui, ces mêmes responsables qui suggèrent que le moment n'est pas venu de changer le régime. Le président Trump a pourtant laissé entendre que la guerre allait bientôt toucher à sa fin. Il a ajouté que les forces américaines avaient déjà frappé toutes les cibles à atteindre. Vendredi, il a même estimé peu probable que les Iraniens se soulèvent prochainement contre un régime toujours aussi dangereux. Le premier ministre israélien Netanyahou a adopté un ton similaire et déclaré que les Iraniens pourraient ne pas réussir à renverser le régime, quelques jours seulement après les avoir exhortés à se tenir prêts à passer à l'action. Beaucoup de gens ont compris qu'il s'agissait peut-être plus d'un effondrement de l'État iranien qu'un changement de régime, commente Eli Gheranmayeh, qui est une experte de l'Iran. Il se pourrait que pour la deuxième fois cette année, les Iraniens voient les États-Unis revenir sur leur promesse d'un changement de régime. Début janvier, donc rappelons un petit peu ce qui s'est passé, pour que vous ayez les infos, début janvier, Trump avait encouragé les manifestants iraniens à faire tomber leur gouvernement. Il avait fait des posts là-dessus. Il avait posté sur les réseaux sociaux que les États-Unis étaient prêts à intervenir et que, avec les majuscules que Trump aime bien, que l'aide était en route. Merci d'adresser super. Merci Nortrug. Merci Ronnie. Il a dit, descendez dans la rue, les États-Unis sont prêts à intervenir, l'aide est en route. Quelques jours plus tard, c'est juste avant que des milliers d'Iraniens soient tués dans la rue par les forces de sécurité iraniennes. Quelques jours plus tard, il a renoncé à lancer une attaque car ses conseillers l'avaient convaincu que les États-Unis ne disposaient finalement pas de forces suffisantes sur place. Les observateurs ont alors craint pour le sort des manifestants qui se sentaient soutenus par le message de Trump. Lors du déclenchement de la guerre le 28 février, Trump et Netanyahou ont de nouveau appelé, c'est pas terminé, les Iraniens descendent dans la rue. Néanmoins, les forces de sécurité iraniennes s'étaient préparées à la guerre et avaient dispersé leur centre de décision en menant une vaste campagne de répression avant même le début des combats. Voilà. Dès les premières frappes aériennes, les autorités iraniennes ont averti les civils par SMS et la télévision que tout manifestant serait sévèrement puni pour s'être rangé du côté de l'ennemi. Un commandant du corps des gardiens de la Révolution avait même annoncé à la télévision que l'ordre de tirer pour tuer avait été donné. Comment voulez-vous que les Iraniens descendent dans la rue alors qu'ils sont bombardés par les aviations américaines et israéliennes et qu'ils sont menacés d'être abattus s'ils manifestaient par le régime? Aujourd'hui, de nombreux Iraniens pensent que les autorités s'en prendront à eux à la fin des combats, par le biais d'arrestations massives, de longues peines de prison et de violence. Dans les années 80, au cours d'une guerre de 8 ans contre l'Irak, la République islamique avait renforcé son pouvoir en exécutant, déjà à l'époque, des milliers de prisonniers politiques. Alors, les Iraniens semblent pessimistes sur la chute du régime. Le Wall Street Journal l'est également. Voilà, en écrivant, une guerre aérienne seule comporte toujours des limites. Lorsque des frappes aériennes étrangères ont contribué à renverser des régimes autocratiques dans la région, elles se sont accompagnées d'un déploiement des troupes américaines au sol, comme en Irak ou en Afghanistan, ou ont été coordonnées avec des milices armées locales, comme en Libye. Aucune de ces options actuellement n'est envisagée en Iran. Un changement de régime nécessite en outre une fragmentation du pouvoir, ce qui ne semble pas être le cas, on va être prudent, en Iran, malgré les attaques dévastatrices contre les organisations de sécurité intérieure, notamment les bases, les centres de commandement des gardiens de la Révolution et des milices civiles Basij, rien n'indique qu'il y ait eu de défection, de division importante au sein du régime. Fin du papier, et qui fait froid dans le dos, la crainte grandit que le gouvernement iranien, enhardi par sa survie, exaspéré par les frappes aériennes punitives, ne durcisse encore ses mesures répressives. Ce régime deviendra plus fort, plus cruel et encore plus monstrueux qu'auparavant, s'inquiète un habitant de Téhéran qui soutenait la guerre. Les gens n'ont pas les armes pour riposter. Voilà pour cet article que je tenais absolument à vous lire ce matin sur les Iraniens qui se sentent aujourd'hui lâchés. Oh, c'est pas parce qu'il y a les municipales en France qu'on oublie ce qui se passe dans le monde. Un peu atroce. Bon, alors, venons-en à notre breaking news, puisqu'on a passé plus de deux heures et quart sur les municipales, et effectivement, c'est une info importante, vous avez raison, qu'on va les vérifier tout de suite. Monsieur Delogu, candidat LFI à Marseille, se retirerait sans union des listes avec le maire sortant, Benoît Payan. Pourquoi ? Parce que Benoît Payan ne voulait pas d'union des listes. Donc, Monsieur Delogu, il avait deux possibilités. Ou il se maintenait au deuxième tour et prenait le risque de faire élire l'extrême droite, Monsieur Alizio, qui a fait également un très bon score au premier tour. Ou il se retirait. Et a priori, il s'est retiré. On va aller voir ça tout de suite. Le Figaro, il se retire de la course. Le Parisien, il y a 5 minutes, effectivement. Libération. Let's go. L'information semble confirmée. À quelques heures de la clôture des listes à Marseille, c'est aujourd'hui à 18h ce mardi, la prise de parole du député des quartiers nord était très attendue. Lors d'une conférence de presse ce mardi, le candidat LFI aux élections municipales à Marseille a annoncé qu'il ne participerait pas au second tour. Ok. Alors on rappelle qu'il est arrivé quand même, il avait fait un bon score hein, en quatrième position, avec 11,94% des suffrages. Jean-Luc Mélenchon avait taclé la position de Benoît Payan de refuser la fusion technique des listes. Hein. Constante irresponsabilité arrogante de Benoît Payan, le maire surprise de Marseille, a taclé Jean-Luc Mélenchon. Il préfère le risque de l'extrême droite à la fusion technique avec LFI. Marseille ne peut le supporter. Ok, vous m'indiquez que M. Delogu a fait un tweet. C'est quoi cette manie de ne pas mettre les logos des partis sur les affiches ? Je n'arrive pas à comprendre ça. C'est un, voilà, le communiqué, il est là. 16 minutes, ça a été posté il y a 16 minutes. Communiqué de presse de la liste Marseille Fier et Populaire. Remerciements aux électeurs. Nous le réaffirmons avec force, l'extrême droite n'est pas une alternative. Elle est une menace, y compris par les pratiques de ses représentants, plusieurs fois mises en cause ou condamnées pour des faits graves d'atteinte à la probité. Marseille ne doit jamais tomber entre leurs mains. Dans ce contexte, le refus de Benoît Payan de construire un front antiraciste au second tour constitue une faute politique majeure et inédite. Ce choix démontre que la lutte contre l'extrême droite a été reléguée derrière des considérations de pouvoir, au mépris des engagements de renouveau démocratique pris devant les Marseillais et les Marseillaises. Face à l'irresponsabilité d'un homme, nous serons responsables pour 1 million. Nous retirons donc notre liste afin de ne pas cautionner une stratégie qui fait courir un risque grave à notre ville. L'intérêt général doit toujours primer sur les ambitions personnelles. Ok. Bon. Alors, ça rebat un peu les cartes, évidemment, à Marseille. Attends. Qu'est-ce que donne... Parce qu'en gros, Payan et Alizio étaient dans un mouchoir de poche. Il y avait 5000 voix entre les deux. Est-ce que le candidat RN a un peu de réservoir de voix ? A priori, très peu. Article de la Provence, journal de Marseille. Voilà. Voilà, j'aimerais revenir sur la position de Martine Vassal. Voilà. Parce que Martine Vassal, d'hiver droite, elle a 12,41% des voix. Je pense qu'on l'a déjà lu, mais j'essaie de me rappeler ce qu'elle a dit pour le deuxième tour. Donc on a donc Benoît Payan arrivé en tête, qui va bénéficier d'une partie des voix de Sébastien Delogu. Voilà. Est-ce que Franck Alizio, crédité 35% des voix au premier tour, va-t-il pouvoir bénéficier d'un report de voix quelconque? Octavito me dit « Vassal se maintient ». Donc ça veut dire que, a priori, il y a très peu de voix de Madame Vassal qui vont aller au RN. Quoi. À supposer qu'il... Alors ça, on va le vérifier tout de suite. Comme ça, on aura toute l'équation. Martine Vassal. Et après, je vais filer à la maison parce que j'ai des Teams qui commencent à 12h30. Martine Vassal. Martine Vassal. Et elle annonce son maintien au second tour, d'accord, ok. Bon, ben, je pense que pour le RN, c'est plié à Marseille. Voilà. Ouais. Alors, une carte angulaire se confirme dans le Vieux-Port. Eh non, le Figaro. Du coup, c'est une triangulaire, parce que M. Delogu s'est retiré. Ça, c'était avant. D'accord. Ok. Ok. Donc, il y avait un suspense à Marseille. A priori, on va être très très prudent. A priori, c'est quasi impossible désormais pour le Rassemblement National de prendre la ville. Après ce retrait de Delogu et du fait que Martine Vassal se maintient au troisième tour. Voilà. Kradouk, a priori, le RN gagne. Bien sûr, Kradouk. T'es encore à l'apéro, toi. J'en ai déjà parlé hier, Kradouk. Si c'est pour troller, raconter des conneries, hein, retourne prendre un pastis. Kradouk, dès qu'on se rapproche de midi, il est bourré. Mais il nous a fait le même coup hier. Incroyable ça. Ah, midi 15, en même temps, c'est l'heure. C'est fou ça. Donc voilà. Merci les amis pour la vue de presse. Oui, mais on l'aime quand même. On l'aime. Ben oui, on l'aime quand même, bien sûr. Les amis, je file parce que j'ai un team samedi 30 pour préparer quoi ? Le MVP de demain, MVP, ma vie pro, l'émission qui explore les voies professionnelles pour que chacun trouve la sienne. Et ben là, on en a eu un la semaine dernière et on en a un autre un demain. Normalement, il n'y en a que deux par mois, mais là, c'est cadeau, c'est gratuit. Samu Askip, on a vu ton gag. Eh non, c'est une fake news pour l'exclamation. ZZGate dans le chat. Il ne faut pas croire les contrôleurs d'extrême droite sur les réseaux sociaux. Encore une fake news, va voir l'image. Si tu veux, je te l'enverrai moi-même. Et si tu veux vraiment une photo de mon zizi, eh bien va sur mon OnlyFans pour l'exclamation OF. Donc demain MVP, 8h30, la revue de presse sera très tôt, 8h30, 10h, on aura 1h30 de revue de presse. Donc ce sera l'info menée tambour battant, voilà. Ensuite MVP avec que des goats, avec Mimi Hegel, avec Ludo, avec Ava Mine pour sa première fois en tant que chroniqueuse dans MVP, ça va être formidable. Et puis on a Arthur Perticose qui a présidé au destin de la CACORP, voilà, et qui nous rejoint à midi pour l'entretien MVP. Donc ça va parler de gaming, ça va parler d'e-sport, j'ai envie de dire la régalade, voilà. Merci les amis, on va faire un raid. Alors, sur les raids, je m'applique beaucoup en ce moment, je fais hyper attention à mes raids, parfois j'oublie, je laisse la caméra allumée, etc. et tout. Donc on va aller voir qui est en live. Après, je vais vous abandonner, mais comme des vieilles chaussettes, je vais aller bosser sur autre chose. Alors, qui est en live ? Je regarde un petit peu. Le problème, c'est que je suis... Là, j'ai à peu près 50 chaînes que je suis qui sont actuellement en live. Je prends mon temps, parce qu'il faut choisir parmi ces 50. J'essaie de changer un petit peu les plaisirs, de varier les plaisirs. J'hésite. Ouais. En fait, il va être surpris parce que je l'ai déjà raid hier ou avant-hier. Mais j'ai envie de raid Joe à nouveau parce que, alors dites-lui bien que je n'ai rien dit et qu'il ne faut pas qu'il leak, mais j'ai passé l'après-midi hier avec Joe sur un tournage secret, sur un truc qui arrive et il a toutes les infos. Mais il ne va rien dire et je ne vais rien dire. Il est sur Pokémon Pocopia, c'est sa folie du moment. Donc, attention, regardez comment je m'applique. Samuel, tu fais ça. Tu laisses pas la caméra. Parce qu'après, si tu vas aux toilettes et quelqu'un t'appelle au téléphone pour dire que ton live n'est pas coupé, voilà. Tu te retrouves, voilà. Alors, sauvé par le sommaire, sauvé par le gong, mais tu te retrouves un petit peu dans la sauce. Donc, je mets ça, je charge le raid, et après, Samuel, tu n'oublies pas de cut le raid. Attends, je me suis mis un post-it avec toutes les infos. Ok ? Bisous les pruneaux. Peut-être à soir pour du gaming, mais ça m'étonnerait, j'ai beaucoup de taf. Et sinon, à demain pour MVP. À très vite, ciao.